Bonjour, je suis Steve.
Et moi, je suis...
Mister Nibani.
Oui.
J'ai eu un doute. Et vous écoutez Comics Weekly.
Cette...
Comics City, putain!
Oh, c'est bon, on la garde, celle-là. On la garde, elle est bien. Ça fait plus original que d'habitude.
41e épisode de notre podcast, première partie des sorties du mois d'octobre, avec le gros événement.
Ah oui. Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui. Siege.
Et puis bon, pas mal d'autres choses, hein. Comme toujours,
Ouais, du
principalement
X-Necrochat aussi.
ouais. Pas mal d'events, hein. Donc un Siege et X-Necrochat, et puis pas grand chose qui n'est pas lié à un event.
Enfin oui, mais au fait, non. C'est super clair.
Comment on dit n'importe quoi. Ça commence bien ce podcast. Que du kiosque Marvel, hein, bien évidemment, puisque en début de mois nous avons que des sorties Marvel.
Essentiellement, oui, ça arrive qu'il y ait des sorties d'essai, mais
c'est très très rare.
plutôt en librairie à ce moment-là.
Ouais, mais ça reste quand même très très rare.
Oui, mais ça reste quand même en librairie. Oui, mais
Ah
ça
oui.
reste très très rare. Oui, mais
Ça peut durer très longtemps comme ça.
voilà.
Pour couper court à cette boucle sans fin, nous allons commencer comme toujours par les news.
Jingle news.
Voilà, je le fais à la bouche. Parce qu'on n'a pas de moyens.
Voilà.
Dans les news, on va commencer par une mauvaise nouvelle. Panini a décidé d'interrompre la traduction et la sortie, donc par extension, hein, de Powers. La série ne rencontre pas son public en France.
Voilà, tu m'envoies des confits, tu sais que j'étais le fan numéro 1 de Powers en France.
Salaud.
J'étais pratiquement le seul lecteur de cette série.
Oh là là. Moi j'aimais beaucoup, donc c'est dommage pour les Français, hein, il reste quand même l'AVO, à réserver à un public qui comprend l'argot, on va dire.
Et qui aime Brian Michael Bendis.
Parce qu'il y a du fucking un petit peu trois fois par bulle.
Ouais,
Au
non, non,
début,
mais enfin,
il y en a beaucoup.
Powers est pas mal. Enfin, en tout cas, le dernier arc, celui que tu m'avais fait lire, le numéro... Enfin, le volume 7, qui était sorti en français, effectivement, je trouvais ça pas mal, j'avoue. Donc bon.
Oui, si tu n'as pas lu depuis le début aussi, tu as eu moins d'attachement au personnage. Donc, par rapport à l'autre arc que tu avais lu...
Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai préféré ce dernier arc que les autres que j'avais pu lire. Et enfin, voilà. Donc, il paraît que le deuxième volume est mieux que le précédent et le troisième encore meilleur, selon toi.
Apparemment, c'est ce que j'ai entendu dire.
D'accord. Donc, en fait, c'est pas selon toi, c'est selon ce que tu as entendu dire de la secrétaire de du chien de ta voisine, on va dire. Très bien.
Voilà,
ok. Mais en tout cas, donc, vous avez plus que la VO, quoi, en gros. Pour suivre Powers, il va falloir se retrancher sur les TPB VO. Bon, est-ce une mauvaise nouvelle ou pas? La traduction était bonne? Oui, plutôt.
Je pense, oui.
C'était pas trop trop mauvais, quoi. Pour...
Enfin, j'ai pu lire les premiers tomes en français. La traduction était pas mal.
Ah oui, mais les premiers tomes, attention, c'était chez Semic, je crois, non?
Oui, mais ça fait déjà une partie. Hein.
Ouais.
Bon, et puis arrête de m'embrouiller, hein, ça suffit. on passe à la suite des news pour pas perdre trop de temps. Panini a communiqué aussi sur quelle serait l'absolute de chez DC qui va paraître en 2011. Il faudra attendre la fin de l'année et ce sera Wednesday Comics.
Ah d'accord. Ouais, bah oui,
en même temps,
c'est logique.
Ça te réjouit, ça te réjouit.
En même temps, c'est logique. Bon, écoute, moi franchement, il y en a qui sont fanas de Wednesday Comics. Donc tu fais partie, je pense.
Ah, j'ai bien aimé, ouais.
Bah écoute, moi j'en ai lu certains qui ont été publiés dans Comic Box, puisque récemment ils en ont publié pas mal au fait dans Comic
ouais,
Box. Surtout que bon bah le format de Comic Box s'adapte assez à Wednesday Comics finalement, puisque c'est un format un peu plus grand que les comics normaux quoi. Et Wednesday Comics c'était très gros.
En fait. Oui, essayez de regarder des photos de la version hardcover du TPB américain et vous allez être surpris.
D'accord. Voilà.
C'est juste un truc gigantesque.
Mais alors donc le principe, c'était des petites histoires, des personnages iconiques DC, c'est ça?
Voilà, c'était des strips. En fait, déjà c'était en format journal, ça
oui.
se dépliait en fait.
Donc vraiment le strip pur et dur, quoi.
Voilà, et il y avait donc 12 histoires différentes.
Voilà, de donc, Batman, voilà. Superman, etc.
Sur une page à chaque fois, en 12 épisodes.
Réalisé par des artistes et scénaristes
quand
prestigieux quand même.
Oui, puisqu'on avait Azzarello et Bermero sur Superman. Je suis peut-être en train de dire une bêtise. Non, c'est ça.
Non, c'est ça.
On avait... il y en a eu tellement. Il y a eu Joe Kubert sur Sergeant Rock, je crois, ou c'était sur Métamorpho. Neil Gaiman sur Métamorpho. Enfin, il y en a une, je les ai plus tous en mémoire là du coup, mais il y en a une pelletée et c'est vraiment vraiment des bons artistes.
En tout cas, c'était à tomber par terre. Bon, passons à la suite.
Il va y avoir un nouveau mag Ultimate Avengers hors série.
Oula, attends, tu peux la refaire celle-là. Ultimate Avengers hors série.
Donc qui contiendra
Ah oui, bah.
Ultimate Thor notamment.
Et New Ultimate,
New
peut-être.
Ultimate, c'est Ultimate X aussi.
D'accord, ok, un petit peu tout le reste de des
Voilà.
nouvelles productions Ultimate, en fait.
Ça commence en avril.
Ah oui, alors, c'est pas demain la veille, quand même.
Mine de rien, en octobre, ça arrivera très vite.
Ouais, mais il va falloir attendre quand même, parce que c'est des séries qui sont commencées déjà depuis un bon paquet de temps aux États-Unis. Et ben voilà, et ben
J'ai déjà tout
voilà.
cassé. Batwoman fera une apparition en français,
Alors j'ai compris
finalement.
Batwoman. Oui,
Batwoman
d'accord.
de Greg Rucka et J.H. Williams III, qui sera au Lille Comics Festival.
Qui sera au Lille Comics Festival? Rappelons-le, viendez tous, c'est les 13 et 14 novembre prochains.
Donc ça sortira dans un DC Icons de 160 pages, à paraître en juin. Ce sera le premier arc en fait.
260 pages?
Non, 260 pages.
Ah oui, d'accord.
Donc, on n'arrive pas à se comprendre là.
On a
J'espère que
vraiment
ça
du
va être
mal
comme ça
depuis
tout
le
le
début.
podcast. Hein.
Ouais, j'espère pas non plus, hein, parce que les gens ne vont rien comprendre non plus. Donc ça sera livré avec un traducteur, ce podcast-là.
Dans les réimpressions, et je sais qu'il y en a certains qui aiment bien choper des choses en Marvel Deluxe, qui n'achètent pas trop en kiosque, vous aurez droit au run de Thor par Straczynski et Coipel,
Ah bah ouais.
deux albums de 288 pages,
Très bon run.
complétés par des one-shots, la deuxième partie d'Annihilation et Old Man Logan.
Ah oui, aussi bon choix, effectivement.
Pas de date, mais enfin c'est pour 2011.
D'accord.
Authority the Lost Year sortira aussi en 2011. Mars et août, ce sera en deux tomes, donc deux formats 100%. Voilà, on aura le droit à la suite de Project Superpowers, le chapitre 2, deux albums en mars et en août.
Alors ça par contre, ça a mieux fonctionné que Powers, visiblement.
Apparemment.
C'est étonnant quand même, parce que Project Superpowers, bon, alors apparemment c'est pour les fans de, enfin les fans de Old School ont réussi à porter cette série, quoi.
Bien, on va continuer dans les choses qui, étrangement, ont mieux fonctionné. Il va y avoir deux nouveaux Big Books consacrés à Jonah Hex.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne série qui donc apparemment a rencontré son public en janvier et en mai.
D'accord. En plus, il y a de quoi lire à chaque fois, donc c'est
Par
un
contre,
véritable plaisir.
l'apparition est quand même vachement accélérée. On risque de rattraper assez rapidement l'apparition américaine puisque vient de sortir le numéro 60, je crois,
Oui,
cette
mais enfin,
série.
ils s'en foutent puisque c'est pas un truc régulier, donc.
Le X-Girls de Claremont et Manara va sortir en français en
D'accord.
février en édition de luxe noir et blanc de 64 pages et pour la version normale en couleur de 48 pages, ce sera disponible seulement en mai.
Et bien alors, ce sera à quel format, en kiosque ou ah non, ce
Alors,
sera.
format franco-belge,
Ah
donc ce
d'accord.
sera sûrement en librairie, j'imagine.
Bon alors le derrière ce titre un peu pompeux. Au fait, hein, c'est juste des dessins de Manara, mais des dessins soft. Il y a pas de, c'est pas érotique. Bien alors, c'est vraiment super soft. Je l'ai feuilleté, j'ai pas remarqué de trucs. Enfin, je veux dire, à la rigueur, le Astonishing X-Men de ce mois-ci, on va en parler tout à l'heure, est plus violent et plus, enfin, moins réservé à un jeune public que ça, quoi.
D'accord. On continue toujours dans les news Panini, de la réimpression de l'univers Ultimate pour ceux qui aiment, et je sais qu'il y en a.
Oui.
Donc dans les Ultimate Marvel Deluxe, nous aurons un X-Men en janvier, un Spider-Man en juin. Alors le X-Men fera 296 pages, le Spider-Man qui sort en juin fera 320 pages avec la mini-série Ultimate 6, et un Ultimate en octobre qui contiendra Ultimates 3 et Ultimatum et qui fera 264 pages.
D'accord, bah alors dis donc, ça va en faire un sacré paquet pour les fans d'Ultimate.
Il y en a trois cette année, apparemment. Donc voilà, Superman Secret Origin par Geoff Jones
Ah, le fameux.
sortira en deux albums DC Heroes en février et en juin.
Oh là là. Oui, d'accord, donc ça va. Ah bah
Moi, je
bon,
trouve
on
que
va.
c'est un petit peu exagéré quand même, deux albums.
Ouais, bah ouais, quand même.
Deux albums, parce que bon, les épisodes sont un peu plus gros que la normale, ils font une 30, 35 pages, je dirais. Mais voilà quoi. Deux albums pour six numéros, c'est un peu beaucoup.
Bon, en même temps, c'est du Gary Frank, donc ça peut être vendeur en librairie. Bon, c'est un choix.
Ouais, mais enfin, voilà, faut voir le prix auquel ça va sortir, mais je trouve ça relativement gonflé de la part de Panini.
Bah, à mon avis, ça va être encore une quinzaine d'euros quand même.
Deux Big Books de Superman en mars et en novembre.
Ah d'accord, donc on va finalement rattraper peut-être un paquet de choses.
Alors, le premier fera 296 pages et contiendra toute la série Superman World of New Krypton, plus un annual, un petit bout d'un épisode d'un annual Action Comics numéro 10. Pour les gens qui aiment Wildstorm, 200% Wildstorm en 2011, Midnighter en juillet, et Authority Lobo en novembre.
Oula, il y a eu Authority Lobo, je savais même pas que ça existait, ça. Ça a sacrément barré encore.
Et voilà. Et c'est tout pour les news Panini, ce qui est plutôt pas mal déjà. Il y a quand même vachement de choses en 2011 qui vont sortir.
Ouais, mais je pense que là, à force, on aura fait le tour du catalogue 2011.
Je pense qu'on en aura encore pour la fin du mois.
Ouais, non, mais d'ici décembre, on aura à peu près passé en revue tout le catalogue, donc c'est bien. Donc si vous voulez vous référer, si vous voulez connaître un petit peu tout le catalogue, les sorties Panini pour 2011, écoutez les quelques derniers Comic City.
Voilà.
Puisque Steve nous tient au courant. Tu fais un petit peu ton Jérémy Manès, en fait.
Ça va, c'est un bon compliment.
Bon, très bien.
Je te laisse la parole pour la suite des news, maintenant. Je me repose.
Ah bah... bon alors... déjà, tu sais que c'est les 75 ans de décès.
Ah non, je savais pas. Enfin, je rigole.
Maintenant, tu
comment rater cet événement?
D'accord, voilà. Donc mais oui, comment rater cet événement? Alors, il y a plusieurs, comment rater? Donc, je vais vous dire comment rater cet événement. Non, pas du tout.
N'allez pas à tel endroit.
Ouais, non, tout le contraire. Il y a plusieurs choses qui se font, de par le monde, hein, pour fêter les 75 ans de décès, puisque c'est quand même la maison d'édition la plus ancienne, niveau comics. Enfin, la plus ancienne. Pas forcément, mais la plus connue en tout cas.
En tout cas, la plus ancienne à ce jour.
Oui, mais la plus réputée ancienne. Enfin, je sais pas comment on s'en
tient. Bref, branche, vas-y.
Bref, donc j'en profite pour dire que déjà, Taschen, les éditions Taschen ont sorti un énorme bouquin,
oui.
Qui a été retardé d'ailleurs. Il sort finalement que le 26 octobre. Le bouquin fera à peu près
150 euros,
mais pèsera 9 kilos, bâton.
Ah, il est monstrueux.
Ou à peu près. Il est énorme. C'est vraiment un petit bijou quand même, à mon avis. Alors, certes, c'est super cher, mais pas 150 euros tous les jours dans un bouquin, heureusement. Mais, enfin voilà, quoi. C'est vraiment.
Je me tâte, mais je crois que ce sera un pass pour moi. C'est vraiment trop cher. Quoi.
Ouais, mais c'est quand même un bon. Alors, pour ceux qui ne subissent pas la crise et qui ne mangent pas des pâtes tous les jours ou des pizzas.
Est-ce qu'il y a des gens qui mangent ? Moi, je peux plus.
Oui, voilà, il y a des gens qui mangent encore. Donc pour ceux qui ont la chance encore de manger à leur faim et qui peuvent mettre 150 euros dans un bouquin, sachez quand même que c'est un véritable pavé, un masterpiece quand même.
720 pages.
520 pages.
700.
720 pages, ouais. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment un truc colossal avec bon des tonnes d'illustrations. C'est vraiment un très gros format. C'est bon, voilà quoi. C'est un truc énorme.
Et pas que des illustrations d'ailleurs.
Non, non, oui, non, c'est vraiment sur
des anecdotes, des choses.
Toute l'histoire, voilà, toute l'histoire de la maison d'édition. Donc, j'ai pas encore vu le bouquin, donc je peux pas être super non plus prolixe dessus. Je peux pas vous dire vraiment tout ce qu'il y a dedans.
Il y avait un article dessus dans le dernier Comic Box aussi, le numéro 66.
Ah oui, d'accord, mais je l'ai pas encore lu cet article. Donc, en tout cas, c'est vraiment, ça a l'air d'être fait avec soin, avec professionnalisme. Donc, sinon, on n'en parlerait pas. Hein. Ça a l'air vraiment d'être un truc intéressant, quoi. C'est pas juste un bouquin comme ça, histoire de surfer sur la fête des 75 ans de décès. Mais à cette occasion, donc, figurez-vous qu'il y a aussi une exposition à Paris, en fait, dans le 16e arrondissement, au Palais de Tokyo, sur les 75 ans.
C'est à Paris ou à Tokyo?
Non, c'est le palais.
Voilà. Non, c'était pour la vanne.
Oui, je sais.
C'était nul, hein. Je sais.
C'était absolument insupportable. Je vais quitter le plateau bientôt. Mais en attendant, donc, une exposition pour fêter les 75 ans de décès, organisée par MyFace et Warner, en fait. Donc, bon, si c'est Warner, on peut leur faire confiance. Enfin, je pense.
Parce que MyFace, je connais pas.
Moi non plus, donc je m'avance pas trop, mais bon, Warner, DC, bon, jusqu'à présent, ça marche plutôt bien ensemble.
Et c'est juste que DC appartient à Warner, même.
Oui. Non, mais enfin voilà, c'est organisé par des illustres inconnus, pareil, qui s'approprient un petit peu le nom de DC, voilà.
Pardon.
Oui, voilà. Donc, alors, pareil, hein, j'y suis pas allé encore, donc on nous promet des œuvres uniques sur le thème de décès, avec des représentations diverses et variées de différents artistes. Donc, alors, je sais pas si c'est uniquement des artistes qui ont bossé pour la maison d'édition, ou si c'est aussi un petit peu de tout, quoi, des artistes de divers horizons. Mais enfin, toujours est-il que, voilà, ça, comme diraient certains, ça a le mérite d'exister. Donc si vous êtes sur Paris, que vous avez le temps, et que vous êtes fan surtout de comics, bah c'est toujours bien d'avoir quand même des événements consacrés aux comics. Il y en a trop peu, je trouve.
Est-ce que tu sais combien coûte l'entrée?
Aucune idée, aucune idée.
On termine cette séquence de news par quelques infos casting. Le prochain réalisateur du prochain Superman a été annoncé et ce sera Zack Snyder.
Zack Snyder qui a réalisé
300 et Watchmen.
Oui. Donc, à voir s'il nous fait une copie. Alors, j'espère qu'il va pas nous faire une copie conforme d'un comics, case par case, avec les répliques par réplique, tout ce qu'il y a eu.
Oh, ça pourrait être sympa. Pour le grand public qui ne connaît pas.
Mais ouais. Enfin bon, en même temps, c'est un habitué, donc déjà quand même des adaptations de comics quoi sur grand écran.
Des adaptations en plus qui ont plutôt bien marché.
Ouais. Qui était assez fidèle, donc ça peut peut-être changer de la précédente incarnation de Superman au cinéma. Que perso, je n'ai pas du tout aimé. Mais bon.
Deuxième news casting, Emma Stone qu'on a pu voir jouer dans Zombieland, très bon film de zombies d'ailleurs hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, jetez-vous dessus.
Oui, très drôle.
Va interpréter Gwen Stacy dans le prochain Spider-Man.
Bon. Et est-ce qu'il y aura Mary Jane? Est-ce qu'on sait qui va interpréter Mary Jane?
Moi, je ne sais pas. Peut-être que l'info est tombée, que je suis passé à côté. C'est aussi possible.
Oui, parce qu'elle a plus une tête à jouer Mary Jane, mais donc ce sera Gwen Stacy. D'accord. Et toujours dans le prochain Spider-Man, le méchant sera joué par Rhys Ifans. Alors, moi, personnellement, ça me disait rien du tout. Il a joué dans Notting Hill et dans Human Nature.
Ok. Comme ça, ça me dit toujours rien.
Voilà. Donc, on parle de lui, peut-être pour jouer le bouffon vert, ou bien alors, peut-être un ennemi qui n'a pas été porté à l'écran encore, mais ça m'étonnerait. Vu que c'est un relaunch.
Il y a le Grizzly.
À mon avis, ce sera forcément le Grizzly. Ou Oslo aussi.
Oula.
La tâche, en fait.
Ah oui, Spot.
Ou le kangourou.
Oui.
Le kangourou, je pense qu'il y a quand même pas mal de chances. Bon, essaye de rebondir là-dessus, Steve.
oh, quel joli van. Et donc, c'est tout pour les news, et on va donc passer maintenant au review de la quinzaine. Le choc du mois. Numéro 1.
Le combat des titans.
Siège en français.
Oui, bah, d'ailleurs, il va falloir sortir toutes les vannes pourries à base de sièges et de fauteuils et de trucs comme ça, quoi. Et de trônes aussi. Enfin, voilà.
T'en as d'autres en snack?
Ça va sortir au fur et à mesure, je pense. De toute façon, pendant les mois à venir, là, on va en bouffer du siège, justement. Donc, voilà. Tout chez Ikea, quoi.
Tout ce que j'espère, c'est que Badis nous fera pas trop mal au cul, qu'on pourra encore s'asseoir.
Voilà, par exemple.
Voilà. Première vanne. Ça, c'est fait.
Bien senti.
Bien senti, une vanne du cul, c'est...
Oui, voilà.
Limite. C'est très limite. Allez. Voilà, on enchaîne, hein. On enchaîne bien. Donc, on commence le mag. Donc, déjà, c'est un 48 pages.
Ouais, c'est un 48 pages à 4€. Bah comme Secret Invasion, comme Civil War, etc. Civil War, je vais le dire à la française, parce que Civil
comme,
War.
Comme Wolverine aussi, je crois, qui est à 4€.
Excuse-moi, j'ai pas compris.
Je disais comme Wolverine aussi, qui je crois est à 4€.
Oui, 3,90€.
3,90€.
Bon, bref.
Donc Wolverine vaut 10 centimes de moins que Siege. Ça va lui faire plaisir. Donc premier épisode du mag, c'est Siege numéro 1. De 4, puisque c'est un event en seulement 4 parties.
Ce qui ne change pas grand chose.
Ça dure 4 mois de moins que Secret Invasion, par exemple.
Ouais. Bon, c'est vrai que là, vu sous cet angle, ça change pas mal de choses.
Voilà, non, mais bon, Marvel a entendu la complainte comme quoi c'était trop long, donc ils se sont dit on va faire un event court.
Oui, mais ils ont pas compris que l'autre complainte c'était que c'était pas terrible et voilà.
Ah, auront-ils raison? On va voir.
Ouais. Enfin,
Donc le scénario est de Brian Michael Bendis, bien sûr. Au dessin, on retrouve Olivier Coipel et à l'ancrage, Marc Morales. Donc, c'est le siège d'Asgard, puisque le mois dernier, pour ceux qui auraient lu le prologue archi-cher et totalement du vol, nous montrait Norman Osborn se préparant à essayer d'envahir Asgard et en essayant de trouver une solution grâce à Loki. Et ben voilà, la solution est là, dans ce siège numéro 1. C'est Volstagg qui va payer.
Ouais. Alors, Norman Osborn refait au fait son propre Civil War, enfin fait son propre Civil War.
Ouais, il fait son Stamford, quoi.
Il fait son Stamford, exactement. Donc là, il fait tout péter dans un stade.
À Chicago.
Mais alors,
ça, on a changé d'endroit.
Et il y a un truc que je pige pas du tout, c'est qu'il y a des caméras partout, vu que c'est un stade avec un match qui est retranscrit.
Ouais.
Et donc, personne ne voit quand même que les UFOs sont là et attaquent Volstagg, quoi.
Alors, Ouais, moi aussi j'ai pensé à ça. Mais bon, l'explication c'est que en s'explosant sur la ligne des 50 yards, Volstagg a créé tout un tas de terre, de fumée, etc. Les autres attaquant tout de suite, ça fait beaucoup de fumée, beaucoup de feu, et les gens ont rien vu et ils ont juste essayé de s'enfuir.
Ouais, mais ils se sont pas dit les Wii-U-Fous, ils sont autant responsables que Volstagg, quoi.
Bah apparemment non.
Enfin, tu vois, c'est ça qui m'embête depuis des mois dans l'univers Marvel, c'est cette espèce de connerie ambiante des gens. Enfin, les Wii-U-Fous, à la base, c'est quand même des gars super dangereux. Alors d'accord, il y a eu l'initiative des 50 États, etc. Mais bon, tu vois, ils se disent pas 5 minutes, tiens, c'est peut-être eux, quoi, finalement.
Donc, Volstagg est mis pour responsable, en tout cas, de cette explosion du stade. Alors, bizarrement, autant dans Siege que dans le numéro qui suit, on nous donne pas le nombre de morts. Alors, autant dans Stamford, enfin, avec la catastrophe de Stamford, on se faisait un plaisir de nous répéter le chiffre, que là, cette fois-ci, on sait pas combien il y a eu de morts. Bizarrement.
Oui, il y a pas trop de, comment dire, de, je veux dire, bon, ça, on passe tout de suite directement, bah, aux conséquences, quoi.
Voilà. Et donc, Norman décide d'envahir Asgard contre l'avis du président. Et demande à Arès de le faire. Arès, c'est pas très chaud, mais
Toute façon, Norman, il va, quoi qu'il arrive, quoi. En
bah,
fait, il s'en
d'ailleurs,
fout, d'ailleurs, de l'avis du président.
pas que Arès, hein, même les Dark Avengers sont pas chauds non plus. Mais il les tient avec la promesse de, une fois que ça sera fait, vous serez libre. Vous ne devrez plus rien. Et donc Arès va devenir le stratège de cette opération.
Oui, et puis d'ailleurs, il arrive. Alors, j'ai trouvé ça ridicule quand même, cette image.
Ah oui,
Il
toi
est
aussi?
totalement ridicule où il fait, où il arrive sur le F-16 là.
Ah mais non, je pensais que tu parlais de la scène où Arès faisait son speech à tous les à tout le monde en disant vous êtes des guerriers, etc.
Ah oui, aussi,
Ah,
oui, aussi, oui,
moi
quelques
ce que j'ai
pages.
trouvé ridicule, c'est quand tu vois le nombre de personnes. On dirait qu'il y a un stade de foot rempli, tu sais, juste de héros d'initiative, de Dark Avengers, enfin de
De
héros.
méchants, quoi, en fait,
Ouais,
en
enfin.
gros, mais
Ouais, mais
mais
enfin,
qui sont-ils, quoi? Oui,
qu'il y en ait
qui sont
autant, ça me paraît un peu beaucoup, quoi.
oui qui
Non, enfin bon.
sont-ils, oui. Surtout que tu vois toujours les mêmes, tu sais qu'ils sont dessinés, alors tu te dis d'accord, et les autres ah bah Joker, on sait pas.
Donc voilà, bah Norman met son plan d'exécution et il s'attaque à Asgard, un peu en traître, hein, ils font une grosse attaque surprise pour les prendre de court. Et merci à Sentry parce que c'est quand même lui qui fait la grosse part du boulot.
Ouais, voilà, en gros, ça va être un affrontement entre Thor d'un côté et Sentry de l'autre, quoi. C'est un truc qu'on attendait
Bah,
depuis longtemps.
Thor arrive et il se fait méchamment exploser.
Oui.
Voilà. Ouais, enfin. Moi j'ai trouvé ça assez bizarre quand même. C'est à la fois c'est lent au départ et d'un seul coup c'est rapide même un peu trop. Il y a un souci de rythme je trouve. Enfin, on passe d'un moment super lent, on se dit bon bah ça avance parce qu'il y a que quatre parties quoi, il va peut-être falloir se bouger. Et puis alors d'un seul coup ça pète et on se dit oh, doucement là ça va trop vite. Je sais
Ouais.
pas, moi ça m'a paru bizarre.
Ouais, enfin voilà, mais j'ai peur que de toute façon, et puis je pense que ça va être ça, hein, que les 3 prochaines parties, bah, ce soit de la baston jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au
Oui,
dénouement.
sachant que, ouais, voilà, pour le moment, les héros ne sont pas arrivés.
Non, les héros ne sont pas arrivés. Alors il y a juste sur la dernière page m'a fait un peu sourire. Le Captain America là qui fait oh, tu sais, on a l'impression, enfin c'est vraiment fait à la française, quoi, puisque c'est Olivier Coipel au dessin. D'ailleurs, on n'a pas parlé tellement des dessins généralement.
Oh bah ils sont bons quoi, comme bah il se fait plaisir. Hein. Enfin c'est lui qu'on a appelé puisque comme il y avait beaucoup dessiné le run de Straczynski sur Thor, il a bien l'habitude de dessiner Asgard et les Asgardiens, donc pourquoi pas lui faire appel. Hein.
Ouais. Enfin voilà, donc c'est sympathique, quoi. C'est pas
Oh, il y a des très beaux plans, la première page avec Volstagg et Asgard en fond. Ah, tous les plans avec Asgard sont super beaux.
Ouais.
Après, bon, il y a des scènes qui sont un peu plus fouillis que d'autres parce que bah chargées en nombre de personnages, quoi. Coipel n'est pas Georges Pérez.
Voilà, c'est ça. Et donc sa dernière image avec le Captain America, ça m'a fait rire, quoi. Parce qu'il y a tu sais, les espèces de petits traits au-dessus de la tête, quoi. C'est très européen de faire ça. Et on avait vraiment l'impression que c'était, tu sais, une planche de sortie de Tintin, Quick et Fluke, où tu vois le mec qui fait « Oh, mais qu'est-ce qui se passe
T'es méchant.
?» Il manquerait plus que le petit tourbillon au-dessus de la tête, tu sais, pour dire qu'il est un petit peu frappadingue, et c'est bon, quoi.
T'es quand même limite méchant là.
Bah non, mais enfin, ça fait partie de notre patrimoine de bande dessinée, donc bon, enfin notre patrimoine, c'est la BD franco-belge, on va dire.
Voilà, pour le moment, je vais pas dire, c'est pas que je suis pas convaincu par Siege, mais j'émets des réserves, quoi.
Oh bah moi j'ai mis plus que des réserves. Pour moi, pour le moment, c'est mais enfin y a rien, quoi. C'est un scénario au prétexte à avoir une grosse baston entre plein de super-héros, créer un gros conflit pour relancer les séries. Moi, pour moi, c'est juste en fait une manière de faire un relaunch, quoi, tout simplement. Un relaunch puisque les ventes étaient moroses, quoi. Et bon, bah voilà, ils se sont dit allons-y, faisons un petit event pour faire un relaunch de tout ça, et puis voilà.
On verra si l'avenir te donne raison. On ouais. passe au deuxième épisode, peut-être? À moins oui, que tu aies encore des choses à dire sur Siege numéro 1.
Non, allons-y. Siege Embed.
Ouais. Embedded numéro 1. Brian Reed au scénario et Chris Samnee au dessin à l'ancrage. Et ben bizarrement, j'ai préféré.
Oui, bah oui, c'était sympa. Mais par contre, alors comme d'habitude, hein, c'est vraiment des épisodes qui n'apportent rien ou quasiment rien à l'intrigue principale, quoi.
Bah c'est en fait Siege Embedded, c'est Siege Frontline. Sauf que ça a changé de nom, puisque Frontline ne s'était pas assez bien vendu avec Secret Invasion, donc ils se sont dit on va pas remettre Frontline, les gens vont peut-être le zapper pensant que ça va être comme Secret Invasion, alors on change de titre.
Ouais, bon, enfin, en tout cas, le principe reste le même. On retrouve Ben Urich, ou Ben Urich, enfin, ça dépend comment tu prononces.
Moi, je prononce Urich, mais...
Moi, je prononce Urich, alors voilà, comme ça, on va pas s'entendre. Non, bon. Ben Urich, donc, qu'on retrouve comme d'habitude, et qui, au fait, nous permet de voir un petit peu le déroulement des choses, des événements, avec les yeux d'un humain, quoi, d'un journaliste, tout simplement.
Oui, d'un journaliste plus que d'un humain, d'ailleurs, parce que c'est quand même sa fonction première. C'est vraiment le journaliste qui gratte un peu là où ça fait mal. Et lui c'est le seul à se rendre compte que Volstagg n'y est pour rien.
Voilà, ce qui est un peu étonnant quand même. Bah c'était le seul aussi à se rendre compte que Norman Osborn était un gros pourri, et alors que tout le monde disait Norman Osborn c'est un petit peu le sauveur de l'humanité quoi.
Donc ouais. En fait là Ben Urich se retrouve à Chicago et il se retrouve coffré par les flics puisqu'il est sur la liste des gens qui n'ont pas le droit de venir.
Oui, c'est sympa.
Une liste que Norman a dû filer aux flics du coin, on imagine. Et il rencontre un vieil ami à lui qui a été créé pour l'occasion. J'ai fait quelques recherches, il n'existait pas avant.
D'accord.
Will Stern, qui a été un ancien présentateur TV qui a totalement pété les plombs en direct. J'aime beaucoup la scène où on le voit péter les plombs, ça m'a fait rire.
Ouais, non, c'était marrant.
J'ai imaginé une chaîne d'infos style BFM ou ITV ou LCI où un mec pète les plombs et fait ça en direct, ça m'a fait beaucoup rire. Et donc bah ce présentateur TV qui est devenu caméraman, il a réussi à retrouver un boulot en simple caméraman LED. Et il s'échappe de ses voitures de flic et il se retrouve à Chicago. Il lui montre un petit peu le centre de là où ça a pété quoi.
Oui, le Ground Zero quoi.
Et puis finalement alors c'est là où c'est un petit peu forcé, c'est la rencontre avec Volstagg quoi. Ils sont dans un restaurant, ils voient Volstagg passer. personne est sur lui, il n'y a pas de
fouille. Oui, personne le poursuit, personne l'interpelle, le mec se balade tranquillement alors qu'il est recherché par tout le monde.
Et après, il l'invite même à manger au resto et donc personne dans le resto ne bouge. Oui. Ça, c'est terrible.
Non, mais oui, personne au resto ne bouge, il y a même pas, tu sais, normalement dans les films, t'as toujours une vieille télé où ils passent les infos, où t'as
allié, des gens plus, dans le resto. Puisqu'ils discutent du gars, là, le fameux patriote que Norman Osborn engage pour donner sa version du conflit.
Mmh. Ben oui.
On le voit et il regarde cette télé, il crache sur le gars en disant que le mec c'est une honte et tout.
Mmh.
Mais ça inquiète personne.
Oui, enfin, voilà, moi ça m'a fait rire. Personne se retourne pour dire non mais attendez c'est lui.
Ouais, surtout qu'il est reconnaissable quand même.
Faut appeler les flics et tout. Non mais là oui c'est vrai qu'il arrive quasiment en chantonnant là.
Quand il marche de toute façon on a toujours cette image de lui avec ce genre de petite musique. Quoi.
Oui voilà exactement. Donc c'était assez ridicule mais bon. En même temps, c'est drôle.
Et donc, finalement, ils décident de partir vers Asgard parce qu'ils se rendent compte, et Ben Urich et Will Stern, que Norman va en profiter et que donc les choses intéressantes vont se passer là-bas et non pas à Chicago.
Voilà, exactement. Mais
avec Volstagg. Voilà. J'aime beaucoup la scène, la page finale où tu vois la camionnette vu que Volstagg est monté dedans, traîné par terre.
Oui.
Oui. C'est le petit détail con mais qui me fait rire quoi.
Oui. Mais non mais enfin c'est très drôle. Le truc c'est que ça n'apporte quasiment rien et ça fait quand même la moitié du mag quoi.
Bah oui, ça n'apporte pas grand-chose, c'est sûr mais je sais pas, c'est plus confidentiel je trouve dans ma façon de faire mais j'ai trouvé ça plus intéressant que Siege.
Oui, ce qui montre bien que Siege pour le moment démarre mal quoi.
Mais ça apporte un certain équilibre. D'un côté, on a la grosse baston où ça pète de partout, de l'autre côté, on a le truc super calme où il se passe presque rien. Une sorte d'équilibre à travers le mail.
Ouais.
On verra bien si ça continue comme ça. Voilà. Donc un premier numéro. C'est un event quoi. Donc si vous vous intéressez au Marvel Universe, faut y jeter un œil. Maintenant, est-ce vraiment indispensable?
Ouais. Voilà, exactement. Pour moi, c'est alors faut dire aussi qu'en France, hein, puisque toi t'as lu en VO, Steve, comme d'habitude. Ouais. Tu fais ton américain. Alors, on sait tous que Steve c'est pas américain en fait. T'es un Niortais pure souche. Mais d'ailleurs, t'es né où, Steve?
Alors non, je suis pas né en tes pures souches, moi je suis de La Rochelle, attention, c'est pas la même chose.
Tu es né à La Rochelle? Oui. Wow, c'est... tu peux le prouver? Non, je plaisante. Non,
je t'enverrai un scan de ma carte d'identité,
si tu veux. Voilà, d'accord, si tu veux. On va faire comme ça. Non, mais je plaisante. Non, mais je disais, Siege, en France, c'est sold out, hein. C'est quasiment impossible de trouver ce premier numéro, en fait. Que ce soit en kiosque ou dans les boutiques spécialisées, j'en ai chié pour le trouver. Donc voilà, c'est vraiment.
Mais aux États-Unis, il avait été sold out aussi, quoi. Je veux dire, les gens se sont jetés.
Non, mais c'est encore plus étonnant qu'en France, ce soit vraiment le. Enfin voilà, quoi. Panini n'en a plus, quoi. Il y a plus de commandes que de stock. Bon, comme d'habitude chez Panini, on va dire. Mais
ils auraient dû s'en douter quand même.
Bah ouais, mais comme d'habitude, quoi.
Ouais.
Enfin voilà, donc c'est un peu chiant, un peu rageant à chaque fois. Voilà, on n'a pas la quantité nécessaire et bon, en tout cas là, le succès est là, quoi, malgré tout.
Peut-être que Panini fera un second printing, on sait jamais.
Ce serait la première fois, je pense. Hein. Si ça arrive, ce serait vraiment la première fois qu'ils font. Enfin, c'est pas dans leurs habitudes, quoi. Au contraire, c'est toujours le marché spéculatif. Je crois que le site numéro 1 est déjà facilement trouvable sur eBay à 20€, quoi, par là.
Ah, quand même.
Donc c'est pour ça qu'on, enfin voilà, non seulement c'est pas terrible, mais moi si j'étais vous, je n'irais pas dépenser de toute façon 20€ là-dedans, quoi. Même 4€ déjà, c'est beaucoup.
Non, mais si j'étais vous, peut-être que j'irais vite fait à la presse du coin, à la petite presse où personne ne va, voir s'ils en ont pas un exemplaire.
Exactement,
ouais,
c'est ce que j'ai fait
sur eBay.
Exactement, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Donc, ouais. Non, mais il y a
pas pour le refourguer sur eBay pour l'avoir, c'est tout.
Oui, voilà, c'est ça. En plus, après, si ça vous plaît pas, vous pouvez en plus leur vendre très cher. Donc ne vous privez pas. Bon, c'est tout.
Ok, bon, on va donc passer maintenant à la suite. On reste dans l'univers de Siege, puisque donc gros event tie-in. Marvel Icons numéro 66. Premier épisode du Max, c'est le New Avengers numéro 61. C'est donc là le pur tie-in à Siege. Scénario, Brian Michael Bendis, bien sûr. Dessin de Stuart Immonen, ancré par Wayne von Crouch-Badger. Aussi Daniel Acuña sur d'autres pages qui s'entre lui tout seul.
Voilà.
Bon, c'est un épisode scindé en deux. Vraiment, il y a deux parties distinctes qui s'intercroisent, hein, bien sûr. Un petit bout d'un côté, un petit bout de l'autre. Ensuite, on revient à la première partie, on repasse à la seconde, etc.
Bah, disons que, ouais, il y a trois persos, au fait. D'un côté, il y a Captain America. On voit ce qui se passe avec lui.
Bah, Captain America et Steve Rogers. Bucky,
oui.
Et Steve Rogers.
Oui, c'est, voilà, oui, c'est vrai. Précisons. Et de l'autre, Spider-Man et Spider-Woman.
Voilà.
En fait, deux binômes, quoi. Voilà.
Ouais. Et Bucky et Steve Rogers sont en train de surveiller la maison des Avengers qui a explosé. Et ils se font attaquer par le Living Laser et le Corruptor, qui ont eu leur pouvoir augmenté grâce aux pierres que Loki a données à Hood. Et donc, ils sont devenus super balèzes.
Oui, mais alors attention, parce que moi ce qui m'a fait chier dès le début, en fait, c'est je me suis dit encore les gars de The Hood, quoi. Je veux dire, je pense que
Façon, il y a que ça depuis le début.
Oui, non, mais je pense que depuis je sais pas un an ou deux quasiment, les New Avengers n'ont fait qu'affronter les la bande à The Hood, quoi, finalement.
Ben oui.
Alors à chaque fois ils sont updatés, peut-on dire, boostés. Alors un coup c'est Jonas Arrow qui a créé une machine et voilà. Maintenant c'est ça. Bon, enfin c'est enfin il y a pas trop d'histoire, quoi. Enfin ils se foutent pas trop, quoi. C'est toujours un peu les mêmes ennemis qui reviennent et voilà.
De l'autre côté on a donc Spider-Man et Spider-Woman qui discutent en surveillant la Avengers Tower et oui. Là ils sont attaqués par Mandrill et Griffin. Voilà. Et donc la partie Spider-Man Spider-Woman est dessinée par Daniel Acuña.
Oui, oui. D'ailleurs, on voit quand même, il y a quand même une sacrée différence entre les deux styles. Enfin,
je préfère personnellement la partie Daniel Acuña, je la trouve beaucoup plus.
Oui,
belle.
Moi aussi.
La dernière page, d'ailleurs, est magnifique.
Oui, et d'ailleurs, le Mandrill fait flipper mon frère. Il me dit, oula, c'est quoi ce perso avec sa sale tête là?
Ah, mais franchement, il est super bien fait. La dernière page, est vraiment super magnifique, quoi.
Oui, c'est vrai que le Mandrill est flippant. Quand même. On n'aimerait pas l'avoir pour voisin. Puis en plus, il laisse des poils partout. Ouais. Et si t'as une copine, et que tu la trouves plus le soir en rentrant chez toi, c'est qu'elle est chez lui, quoi.
Je suis en train de chercher le rapport. J'en vois pas.
Mais si, il a ce pouvoir, le Mandrill.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Mais
il
oui.
A le pouvoir de pas, oui, d'influer les femmes, c'est vrai.
Exactement, il a des phéromones
oui,
qui
en
font
plus,
que.
Ça a été répété, oui.
Voilà, c'est pour ça d'ailleurs à la fin, je pense que...
Oui, je ne voyais pas le...
Bah oui, donc ta copine est chez lui et en plus je me vois mal aller, bah, aller sonner quoi pour la récupérer, enfin bref. Voilà.
Ok. Bon, voilà, il se passe pas grand-chose quoi, à part que les New Avengers se font bien défoncer.
Oui, mais que, comme d'habitude, en fait ça commence toujours comme ça et puis après ils trouvent une solution et ils s'en sortent tous.
Donc pour le moment, le rapport avec Siege, là encore, on cherche.
Bah ouais. Parce que à ce moment-là, il y a un rapport avec Siege depuis 2 ans, puisque ça fait au moins 2 ans qu'ils affrontent ces ennemis-là, quoi. Enfin, 1 an, allez, je vais être sympa, je vais dire 1 an, quoi. Je
sais non, parce que c'était même avant Secret Invasion.
Ah bah oui, bon bah voilà. Okay, bon. Bon, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Bon, ça reste sympa à lire, quoi.
Oui, c'est sympa, quoi. Bon, il y a une, y a un très bon dialogue entre Spider-Man et Spider-Woman.
Oui, voilà, c'est ça. Bendy se fait plaisir avec des petits dialogues sympas à chaque fois, mais bon.
Mais franchement, je cherche le rapport avec avec Siege, quoi. Là, c'est vraiment, on met Siege sur la couverture pour faire vendre, et c'est tout. Et c'est pas la faute à Panini, c'est la faute à Marvel, puisqu'il est tagué Siege chez Marvel aussi, quoi.
Oui.
Et ça n'a pour le moment aucun rapport.
Non, mais franchement, enfin, pour moi, à partir de Siege, Marvel est vraiment, enfin, voilà, en perte de vitesse. Et bon, on va le commenter au fur et à mesure tous les mois, mais je pense qu'il y a, il y a peu de chances que ça redevienne intéressant, enfin, vraiment intéressant avant quelques temps.
Bah on va passer à quelque chose de beaucoup plus.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va passer à une autre série qui, elle, est quand même l'une des séries phares actuelles, je trouve.
Ouais. Fantastic Four numéro 571. Scénario de Jonathan Hickman, dessin ancrage de Daily Gulsham. Donc c'est la suite de Reed Richards qui découvre ce fameux conseil.
Ouais. Enfin,
je sais pas trop comment ils l'ont traduit en français.
Je crois que c'est ça, hein.
C'est le conseil, c'est le 46 là, en anglais. Donc,
Oui, en le fait, conseil, ouais.
En fait, Sue est pas trop contente puisqu'il passe pas mal de temps dans son labo enfermé, puisque normal, il passe son temps à traverser le bridge et à se retrouver bah, justement sur cette terre où il y a tous les autres Reed Richards. Et il lui demande de lui laisser une semaine.
Oui, tu te rends compte un petit peu, Sue est justement est assez saoulé que son mari que son mari s'est sorti tout seul en plus. Que son mari, en fait, la trompe en quelque sorte, mais il la trompe même pas avec d'autres nanas, il la trompe avec lui-même, quoi, en plus.
Ouais, sauf bon, elle est censée ne pas être au courant.
Ça. Oui, oui, non, mais elle s'en doute pas, mais je veux dire, en plus, si elle savait, franchement, il y a de quoi gueuler, quoi. C'est vraiment un scandale.
Une Donc, fois encore, bah, on a le passage classique avec Hickman, le passage famille, où il y a le petit déjeuner, où ils s'engueulent, le truc classique, et on a l'aventure intergalactique, quoi. Et on a Galactus.
Et oui, et puis c'est super beau. Quand même.
Ah mais c'est superbe, Daily Gulsham maîtrise parfaitement
la page, la double page avec Galactus et tout au début.
Ah ouais, c'est super belle.
Voilà quoi. Avoir l'original de ça, à mon avis, ça doit coûter un bon paquet. Hein.
Tu m'étonnes.
Donc mais
on peut pas trop en dire en fait. Reed découvre un petit peu ce que fait le Council, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien, et bah, justement, il a une semaine pour prendre sa décision. Va-t-il continuer à jouer les super-héros au sein des 4 Fantastiques ou va-t-il accepter l'offre du conseil de rester avec eux?
Bon, on se doute de la réponse quand même.
Ah, là, c'est peut-être pas celle que vous croyez.
Ouais, bon, ben on verra, de toute façon. Moi, je la connais pas, mais bon.
Et la fin est sympathique.
Ah, tu connais déjà l'arc.
Bon, non, la fin de l'épisode.
Ah oui, d'accord, non, je pensais que tu parlais
la fin
de l'arc.
De l'épisode.
Oui, d'accord.
Parce que bien sûr, forcément, ça se passe mal. Et donc, un gros conseil de Reed Richards où beaucoup ont le gant de l'infini hein, quand même. C'est qu'est-ce qui pourrait venir les déranger? Eh ben voilà.
Ben voilà.
Bien malin.
Voilà
bien
une réponse
qu'il trouvera. Ouais, on peut pas trop en dire parce que c'est vraiment sympa à lire et à découvrir soi-même. Moi franchement, j'adhère énormément à ce que fait Hickman.
Oui. Ben alors le seul reproche, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est pas totalement nouveau, quoi. Ce côté Reed Richards a des doubles, il discute avec eux, etc. Il avait déjà rencontré des doubles de lui-même, justement dans le run de, je crois que c'était Dwayne McDuffie avant Mark Millar, quoi. Au moment où plus personne ne le lisait, donc. Voilà.
Ouais, mais bon, il a, je sais pas, je trouve que là, ça passe bien. Là, bon, j'ai pas lu le run de McDuffie, mais...
Non, mais voilà, mais le truc, c'est que tout le monde est revenu, maintenant qu'il y a eu Millar qui est passé, donc tout le monde est revenu sur les Fantastic Four, et du coup, Jonathan Hickman bénéficie un petit peu de cet effet-là, quoi, de cet effet, de ce regain d'intérêt pour la série. Donc, bon, il a eu la chance d'arriver après, quoi.
Le regain d'intérêt est grâce à Hickman, et non pas grâce à Millar, mais...
Ben, en fait, disons qu'il y avait quand même... Enfin, plus personne ne lisait les Fantastic Four avant que Millar crée un petit buzz, quoi, on va dire, malgré tout.
Donc voilà, moi franchement pour moi un très très bon épisode.
Ouais, très très bon on attend la suite avec impatience tous les mois, quoi.
Ouais.
C'est pratiquement la série, la meilleure série du mag, je pense, actuellement. Quoique,
ce qui vient est vraiment pas mal.
Oui, voilà, donc Iron Man, Invincible Iron Man, plutôt.
Invincible Iron Man, volume 5, numéro 20. Scénario de Matt Fraction, dessin, ancrage de Salvador Larocca. Première partie de Stark Disassembled. Donc, on nous fait encore le coup du Disassembled, hein, comme vous avez fait les Avengers, Thunderbolts, enfin plein de trucs, quoi.
Ouais.
Depuis que Bendy, ça fait ça, tout le monde le fait.
Oui, c'est un petit peu une gimmick, quoi.
Ouais. Comme les Crisis chez DC, quoi.
Ah, exactement.
Et donc on a fini le World Most Wanted le mois dernier, de 12 parties.
Ouais.
Et on nous a laissé Tony Stark dans un état végétatif, incapable de respirer par lui-même, donc juste grâce à une machine.
Donc vraiment au plus bas, quoi.
Au bon soin du docteur Donald Blake.
Oui, bah vaut mieux que ce soit le Donald Blake docteur Octopus, quoi.
Ouais, c'est sympa, c'est mieux, je pense.
Oui.
Et on a, je trouve, un super épisode avec ce message posthume de Stark qui prend plus de la moitié du numéro, avec un découpage mais vraiment en 8 cases sur tout l'épisode.
Alors oui, alors, par contre là, comment s'appelle-t-il, Salvador Larocca, c'est pas trop foulé, quoi. C'est un petit peu toujours le même dessin, en fait.
Oui, non, tu regardes les expressions faciales de Tony.
Ouais. Oui, d'accord, mais je pense que c'est rapide à faire quand on est Salvador Larocca.
Ouais, mais enfin, en tout cas, je trouve que au niveau du storytelling, c'est vachement bien fait, quoi. On sent, je sais pas, moi, j'ai vraiment adhéré à ce côté. Je te fais le message, ça traîne en longueur, et on sent que le mec revient pour ajouter un dernier truc. Enfin, je sais pas, moi, j'ai vraiment adoré, quoi.
Oui, c'est les expressions faciales sont bien adaptées à chacune des phrases et des bulles, quoi, tout simplement,
ouais.
De ce qu'il dit. Ouais, bien sûr. Ouais.
Voilà, on a ça qui nous prend la moitié du numéro. On voit aussi de l'autre côté Stark, on voit ce qui se passe dans sa tête, puisqu'il rêve à moitié, enfin il est prisonnier de son propre cerveau, puisqu'il est dans un état végétatif, où il revit toujours la même scène. On va voir ce que ça va donner.
Ouais, voilà, exactement.
De ce côté-là. Il est avec son père et sa mère.
Mais ouais, est-ce qu'on va en apprendre plus sur eux, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant, mais il y a aussi cette espèce d'opposition, comme d'habitude, entre lui et la machine, quoi, on va dire.
Ouais, puis même l'opposition entre lui et son père, quoi. Par exemple, on voit qu'il appelle son père Howard et qu'il appelle sa mère maman.
Effectivement, ouais.
Déjà. Donc on voit qu'il ne montre aucun respect pour son père. Enfin bon, ça on le savait déjà, mais Fraction réinsiste là-dessus, quoi.
Ouais, on savait que son père...
Il n'insiste pas tellement, en fait. Il monte sans insister. C'est ça qui est très malin, je trouve.
Mais oui, enfin voilà. De toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. Que ce soit les super-héros ou les super-vilains, bien souvent, ils ont des pères alcooliques qui les battaient quand ils étaient petits. Enfin voilà, bon. Sauf Bruce Wayne, mais Bruce Wayne...
Et sauf Spider-Man.
Oui, c'est vrai. Ben oui, enfin oui. C'est vrai. Quoi qu'à un moment on a voulu nous faire croire que ses parents c'était des pourris, et puis Bruce Wayne, c'est ce qui se passe actuellement dans Batman Rip, hein, c'est un petit peu ça. C'est le père de Bruce, on se dit ah, mais attends, mais finalement c'était peut-être un pourri. Donc bon, c'est un thème qui est récurrent, quoi, quand même.
Ouais, le problème du père, quoi.
Oui, voilà.
Sinon, ce qu'on a aussi d'intéressant, c'est Norman qui enlève la prime sur la tête de Stark et Madame Masque qui refuse d'abandonner.
Oui, de toute façon, Norman un petit peu forcé contraint, vu ce qu'il a fait dans le dernier numéro. De toute façon, on peut le dire, hein, il a foiré son coup, de toute façon.
Ah bah, de toute façon, oui, c'est plus un spoil. Hein. C'était le mois dernier, c'est plus un spoil.
Voilà.
Mais bon, Madame Masque engage quelqu'un pour finir le job.
Oui, d'ailleurs, ça m'a étonné, parce que Madame Masque, avant, c'était quand même... c'était pas une alliée, quoi, mais elle a jamais...
Elle était amoureuse de Tony, quoi.
Oui.
Elle l'est toujours, d'ailleurs.
Donc là je comprends, enfin, c'est pas que je comprends pas, mais je trouve ça assez surprenant, quoi, cette réécriture un petit peu du personnage, quoi, qui est vraiment on a l'impression qu'elle a complètement pété les plombs.
Bah on verra où ça va aller, quoi.
Bon, en même temps, elle est peut-être vénère parce que effectivement, elle se rend bien compte que entre lui et Pepper Potts, c'est du sérieux.
Oui, aussi.
Donc
c'est peut-être ça aussi qui l'a énervé, le fait en plus que Pepper Potts qu'elle prenne son apparence, qu'elle se fasse passer pour elle, donc elle veut la punir en tuant Tony, quoi. Va savoir.
Bon, enfin, en tout cas.
Pepper, en tout cas, elle est pas forcément d'avis de réanimer Tony, mais pareil.
Elle est Red Hot. Oh. Bon, voilà. On va passer à la suite. Très vite. Très, très vite.
Voilà, donc moi, franchement, j'ai un épisode que j'ai trouvé super intéressant. Bon,
ah oui, non, mais c'est très bon.
J'ai super envie de lire la suite.
Oui, voilà. C'est il y a deux séries vraiment qui me font lire Marvel Icons principalement. C'est Fantastic Four et Invincible Iron Man. Et malheureusement, plus la série à laquelle on va passer.
Juste, je précise quand même qu'à la fin du numéro 20 d'Iron Man en VO, on avait un petit saga hein, qui nous refaisait l'historique d'Iron Man depuis Civil War seulement.
D'accord, ouais, enfin c'est quand même pas mal, quoi.
Oui, bon, ça prend 5-6 pages.
Bon, évidemment, en français, on peut se torcher pour avoir ça. Hein. C'est pas.
Mais franchement, il y a rien. Personne n'apprendra rien là-dessus, quoi.
Ouais. Mais enfin, généralement, ce genre de truc, on l'a pas en français, ou alors on l'a dans des numéros qui sont plus chers, avec soi-disant des bonus, etc.
Ouais. Bon là c'est simplement des images qui sont tirées de couverture et avec juste des petits textes écrits qui racontent un peu ce qui s'est passé depuis Civil War. Mais c'est franchement totalement dispensable.
Ok. Donc,
voilà. Dernier épisode du Mac, c'est le Captain America numéro 602. Mm-hmm. Alors quid du 601, puisque il est passé à la trappe. Je me rappelle pas de l'avoir vu publié.
Ben moi non plus. Et le 601, je crois que c'était par
Par Gene Colan.
Par Gene Colan justement.
Ouais. Je ne sais pas où il est passé, peut-être que c'est moi qui l'ai raté, ou alors qu'ils ne l'ont pas publié en français, tout simplement.
Bah moi je l'ai pas vu non plus, donc à moins qu'il soit sorti dans un truc hors série, ou Marvel Saga, ou je ne sais quoi.
Mais je sais pas, mais ça ne me dit rien du tout, alors si vous, auditeurs, ça vous dit quelque chose, bah dites-le nous, parce que là on ne sait pas.
Ouais. Ou bien alors, comme il n'est pas dans la continuité, ils vont nous le sortir prochainement, quoi.
Ouais. Enfin bref. Passons. Le scénario est d'Ed Brubaker, les dessins sont de Luke Ross, et l'ancrage est de Luke Ross et Butch Cassidy.
De Luke Ross. Ah oui, c'est vrai que tu dis Luke.
Ah bah oui, Luke.
Luke. Luke, je suis ton père. Non, tu vois, c'est Luke. Donc, faut
bah, en français, c'est Luke, mais...
Oui, mais... Luke. Mais on est dans Comic City, pas dans Comics Weekly, donc c'est Luke. Faut s'adapter aussi. Bon, donc...
Alors,
C'est... Oui, vas-y.
Bucky est resté Cap, hein, au cas où vous le sauriez pas encore.
Cap ou pas Cap? Cap.
Pouh, il y a de la vanne aujourd'hui, putain.
Oh là là. Et en plus du haut vol, hein.
Ah ouais, non, là c'est vraiment magnifique.
Ouais. Non mais j'espère que tu devrais mettre une boîte d'applaudissements, je sais pas, faire un truc.
Moi je vais y penser bientôt, ouais, je crois.
Donc.
Donc Bucky a un nouveau bras, hein, plus mécanique, tout joli, plein de chair et tout, offert grâce à Nick Fury.
Bah lui aussi, tu vois, il pourra applaudir à mes vannes maintenant qu'il a un nouveau bras en plus.
et donc Nick le prévient que le Cap des années 50 a été repéré dans l'Idaho et qu'il prépare un mauvais coup. Donc lui et Falcon décident d'aller voir ce qui se trame et ils s'infiltrent pour essayer de voir ce que nous prépare le Cap des années 50.
Voilà. Mais je sais pas pourquoi. Enfin, tu vois le pitch, c'est pas mal. Enfin, tu vois, ça donne envie de lire, mais je me suis un peu emmerdé. Bah, quoi.
C'est sympa, mais c'est un peu lent, quoi.
Oui, voilà.
C'est l'épisode qui nous avait apporté tant de problèmes aux États-Unis, puisque c'est là où on voit la manifestation et qu'il y avait eu les problèmes avec le Tea Party, qui avait gueulé parce qu'on avait pris leur slogan. Enfin, c'était tout un pataquès aux États-Unis par rapport à ça.
Mmh.
Voilà. Bon, bah, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'ai quand même plus adhéré que les derniers épisodes de Cap qu'on avait lus. Je parle pas de Capri Born, hein. Je parle de la série régulière. Mais bon, c'est toujours lent, quoi.
D'accord. Ouais. Moi, j'attends de voir la suite. Sans trop attendre, justement. Enfin, tu vois, je suis pas impatient de la lire, mais voilà. J'ai l'impression que Brubaker se repose un peu en ce moment sur Cap, quoi. Je sais plus s'il a. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il ait tellement envie, quoi. Je comprends pas pourquoi il continue.
Je sais pas, sous contrat peut-être. Je vois rien de plus à dire sur cet épisode, malheureusement.
Non, moi non plus. Voilà.
Ok, bon on va passer à la suite alors. On continue donc dans les tie-in à Siege avec Darkrai numéro 14. Premier épisode, c'est le Dark Avengers numéro 13, scénario de Brian Bendis. Putain, mais il est partout celui-là. Hein.
Ah, c'est sur les Vengeurs, de toute façon. Forcément.
Le mec, il s'en rend compte que maintenant, ça. Et au dessin, Mike Deodato. Dessin et ancrage, bien sûr. Donc là, ça y est, on est enfin de retour sur la fin de l'épisode 9 de Dark Avengers.
Et on en est l'épisode au épisode 13, c'est ça.
Ouais, à l'épisode 13, c'est-à-dire l'épisode où la femme de Bob, de Sentry, lui tirait en pleine tête.
Voilà. Et bah d'ailleurs, tu te rappelles que la dernière fois, nous n'avons pas parlé de la revue Dark Reign.
Oui.
Parce que justement, ça faisait pas suite à ça, et puis surtout, c'était un arc qui servait pas à grand-chose.
C'était un arc en trois parties qui était pas si intéressant que ça.
Pas si intéressant, si ce n'est qu'on apprenait que Sentry avait d'autres pouvoirs.
Oui, voilà.
Et justement, on revient sur Sentry.
Voilà, là, c'est un gros update des origines de Sentry. ainsi
Ouais.
qu'un turn pour le personnage, je pense. Hein. En tout cas,
Ouais.
dans sa vie et dans son comportement.
Bah ouais, mais en fait moi, bah vas-y, dis ce que tu en
Non,
as
vas-y,
pensé.
vas-y, je t'en prie.
Bah je trouve que justement c'était pas très inspiré ce comment dire, cette nouvelle révélation, que ça n'apporte finalement pas grand-chose, parce qu'on savait que le mec était taré, on savait qu'il était schizophrène, tout ce qu'on savait pas c'était que bon bah il n'avait pas eu ses pouvoirs en étant scientifique et en faisant des expériences, il les a eus parce qu'il était un junkie. Bon,
Bon là, tu fais un gros
soit.
spoil. Je vais peut-être prévenir. Je préviendrai sur le minutage, hein.
Voilà, ouais, non, tu préviendras. Mais ok, mais en soi, est-ce que ça change vraiment quelque chose au personnage? Est-ce qu'il est actuellement, il était
Ben,
déjà
ça change sa
schizo?
moralité, je pense, puisqu'il a menti à tout le monde.
Oui. Ouais, mais en même temps, il est fou. Donc, est-ce qu'il s'en rappelait lui-même? Est-ce que, enfin, tu vois?
Ouais, mais ça change la moralité du personnage et
Ouais.
on nous le fait passer pour un bad guy si c'était pas déjà fait. Moi, de toute façon, je le prenais pour un gros
En tout
benêt.
cas, le
Donc
message, là, pour moi, il est clair. Ça veut dire, Sentry, vous le voyez, bientôt, vous le verrez plus, quoi.
ouais, peut-être. Moi, il y a un truc qui, franchement, par contre, me gêne beaucoup plus que ça encore, c'est le rapprochement avec la religion vis-à-vis des pouvoirs de Sentry.
Oui, ça, mais ça j'ai trouvé
Alors,
ça
ça,
inutile.
par contre, ça me gêne profondément.
Bah, j'ai trouvé. Non, mais moi j'ai trouvé ça vraiment inutile au fait. Autant bon qu'il soit donc, enfin qu'on nous montre de nouvelles choses sur ses origines. Je vais le dire comme ça. Ok.
C'est trop tard, t'as spoilé de toute façon.
Oui, enfin bon, ça dépend si tu coupes ou pas quoi. Je sais pas.
Non, je comprends pas.
D'accord. Bon alors qu'on apprenne que c'était un junkie et non pas un grand scientifique. Ok, d'accord. Ça ternit l'image du personnage. Mais là, le coup du parallèle avec la religion, etc., avec Dieu, quoi, carrément, quoi.
Oui, avec Dieu. Oui.
J'ai trouvé ça vraiment, bah, too much, quoi, un peu ridicule.
Ben moi, j'ai trouvé ça totalement ridicule et franchement, ça me gêne. Ça me gêne.
Et puis,
Ben, les Américains sont ce qu'ils sont, on sait très bien qu'ils sont très croyants, etc. Mais pour moi, la notion de religion devrait être absente des comics d'une parce que ça peut offenser n'importe qui n'a pas la même religion. Et deuxièmement, dans un monde où des dieux marchent sur Terre tels que Thor, Arès ou Hercule ou ce genre de choses, ou les célestes, je veux dire, quelle est la place réelle de Dieu? Enfin, voilà, enfin, je veux pas lancer un débat philosophique non plus, mais
Bah, comme tu dis, la place, elle est pas dans les comics, en tout cas, quoi.
voilà, moi pour moi, ça c'est vraiment gênant. Et alors en plus, nous rapprocher Sentry avec Dieu, enfin bon voilà, on
Enfin,
sait déjà
ça
qu'il a
dépend. Non,
un
en fait,
énorme pouvoir, si c'est pour nous ressortir en plus ça.
ça dépend, en fait. La religion, à la rigueur, dans un comics, hors mainstream, type
Ah bah
Walking
non mais
Dead.
bien sûr, moi je parle dans des mondes de super-héros,
Voilà, oui, c'est ça, oui,
dans
bien sûr.
le Marvel Universe ou dans le DC Universe, tu vois, par exemple. Moi non, enfin pour moi c'est enfin je veux dire Galactus est un dieu à ce moment-là quoi.
Oui, mais totalement, même, totalement.
Mais oui non enfin
Non,
bon
puis même
pour moi c'est
la
gênant
scène,
quoi.
finale où il va dans le soleil, de toute façon, il a la puissance de combien d'étoiles ou de combien de
Ou 1
soleils.
million de soleils je crois.
Oui, donc bon bah de toute façon même là, tu te dis ça sert à rien. C'est enfin c'est puis c'est du déjà vu le coup de combien de fois Superman a essayé de buter un ennemi en l'envoyant dans le soleil.
Non mais je sais pas, moi c'est ce parallèle avec la religion qui me déplaît vraiment, vraiment beaucoup. Faire remonter ça à Moïse et compagnie, ça me gêne. Ouais.
Oui, puis enfin, je vois pas trop le rapport entre Sentry, dont on nous dit, d'ailleurs, on vient de nous dire, bon, Sentry était un junkie, et après on fait le parallèle avec Moïse. Bon, qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans que Moïse était un junkie, enfin, tu vois,
Moi je sais pas, moi je
non
suis.
mais voilà, il y a pas vraiment de rapport de causalité, c'est un petit peu, bah voilà, c'est un petit peu too much, quoi. Bendis a voulu se faire plaisir en, peut-être qu'il pensait que ça faisait, justement, que ça allait rendre le personnage super intéressant, de faire ce parallèle-là, mais.
Ah, je sais pas, il a peut-être d'autres choses à nous dire dessus encore. Moi, pour le moment, il m'a pas vendu avec cette histoire. Enfin, il m'a pas conquis, quoi.
Oh, bah oui, en tout cas, le parallèle est vachement cliché, quoi.
Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Ce que vous pensez de ce retournement, ce changement de situation, ce parallèle avec la religion, si ça vous dérange ou pas. On va bien avoir un petit peu votre avis aussi là-dessus.
Ouais, et puis si vous avez trouvé ça utile, tout simplement, cette espèce de, bah, quoi, de retcon, quoi. C'est un retcon, finalement. Des origines de Sentry. Donc voilà.
Qui sont pourtant pas si vieilles que ça.
Oui, mais c'est pour ça que moi je pense que ça sent le cramer hein, pour ce personnage-là.
On verra bien.
On verra. Ouais.
On passe aux deux épisodes suivants, puisqu'il s'agit de deux épisodes de la même série, Thunderbolts numéro 139 et 140. Donc Jeff Parker au scénario, qui arrive sur le titre.
Eh ben, on se rend compte d'ailleurs qu'il arrive que c'est Jeff Parker puisqu'il oppose les Thunderbolts aux
Au
agents
Jay.
d'Atlas.
Ouais. Changes of Atlas. Ouais. Au dessin, on a Miguel Sepulveda aussi, je peux le préciser.
Précisons-le. Ouais. Parce que
Bah,
sans
c'est
les
beau quand
dessins,
même.
ce serait tout de suite moins bien un comics.
Moi, puis c'est beau, moi j'aime bien le style de Sepulveda, donc.
Bah, en fait, ouais, c'est pas mal. C'est, enfin, il y a quand même des endroits où ça fait un peu vide, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Il ressemble pas mal, enfin je trouve, dans le style à justement celui qui avait fait la partie Spider-Woman et Spider-Man,
Acuna?
je trouve pas.
Daniel Acuna?
Ouais.
Moi, je le rapprocherais un peu plus d'un Deodato, en fait. Donc, il s'était pas mal inspiré au niveau du style, en tout cas au départ, sur son arrivée sur le titre avec Andy Diggle, et il a progressivement changé pour amener son propre style.
Ouais.
Mais moi, pour moi, il a un côté assez Deodato. C'est aussi le coloriste qui donne ce côté-là, avec ce côté sombre, mais ça s'approcherait plus de Deodato que d'Acuna.
Ouais.
Bah, enfin, c'est selon moi, hein. Après...
Oui, non, mais tout à fait, oui. Après, ça vient peut-être de l'ancrage, etc. Il y a peut-être plusieurs facteurs
Bah,
aussi.
il s'ancre lui-même, hein, comme
D'accord.
Deodato d'ailleurs. Et comme Acuna aussi.
Et comme, oui, voilà. D'accord. Bon, en tout
Donc,
cas, le résultat est sympa.
puis l'histoire est pas mal.
En fait, l'histoire est pas mal, mais j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur, en fait, de faire deux parties qui sont en fait que de la baston entre Agents of Atlas et Thunderbolts.
Thunderbolts qui accueille un nouveau membre, en la personne de Grizzly.
Ah oui, c'est vrai.
Sortez, sortez vos vieux comics.
Oui. Grizzly.
Voilà, qui rejoint l'équipe, donc dans le genre loser, il se pose là, lui. Et donc voilà, pour aller dessouder Agent of Atlas qui avait berné Norman. Et voilà, bon, c'est par cœur, quoi, comme tu disais, hein, il amène Agent of Atlas, puisque c'est lui qui avait le titre, qui n'a pas
Bah,
vécu trop longtemps.
ça permet de lire un petit peu d'Agents of Atlas, peut-on dire, en français, quoi.
Ouais, et puis dans des séries qui se vendent beaucoup plus, puisque Agent of Atlas n'a pas vraiment marché aux États-Unis, c'est pour ça que ça a été arrêté. Et bon, bah, encore une fois, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que les Thunderbolts sont vraiment mis à mal. C'est vraiment l'équipe de losers par excellence, ils se font défoncer. Bah, depuis que Warren Ellis n'est plus sur le scénario, ils n'ont pas vraiment de réussite, quoi, dans leur mission. Je sais pas ce que t'en penses, mais à chaque fois, ils perdent, quoi.
Ben ouais. Enfin c'est bah ouais. Oui, c'est vrai que oui, si on fait le récap des derniers mois, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils perdent. Mais en même temps, ça j'allais dire, Norman un petit peu se paye un peu leur tête, quoi. C'est-à-dire qu'il les envoie dans des missions. On se demande même si c'est pas lui-même que de toute façon ils vont foirer.
Sais pas, peut-être, ouais.
Parce que le tu vois, son équipe, finalement, c'est pas du tout les Thunderbolts, il en a rien à foutre, c'est les Dark
Oui, c'est Dark
Avengers.
Ranger, ouais, bien sûr.
Donc les Thunderbolts, à quoi servent-ils finalement? Bah, au fait, ils servent un peu à rien, et on a l'impression que Norman, tu vois, à chaque fois qu'il trouve une mission à la con ou inutile, il les envoie dessus, quoi. En espérant peut-être qu'ils reviennent pas, et à chaque fois ils reviennent. Donc Norman se dit, bon, bah, je vais leur filer encore une autre mission à la con, et on verra bien. Sinon, mais ça tombe, on nous révélera ça dans les derniers épisodes, je sais pas, hein. Peut-être que Norman, au fait, essaye de les éliminer, je sais pas, hein. Enfin, c'est assez étrange, quoi, son rapport aux Thunderbolts.
Bah, sinon, bah, pas grand-chose, quoi. On apprend un petit peu de choses sur l'équipe Atlas, hein, pour ceux qui la connaîtraient pas.
Ouais. D'ailleurs, elle semble assez sympa quand même.
Oui,
Surtout le
oui.
l'espèce de robot et puis
M11,
le
ouais.
gorille.
Bah, c'est en gros une équipe dont les capitaux servaient à financer des opérations douteuses et travailler pour le crime, et ils décident bah, d'utiliser tous ces capitaux, etc., pour faire la justice, mais de manière détournée.
Voilà. Et puis c'est surtout une équipe du Golden Age, au fait.
Ouais, voilà.
Enfin, des personnages du Golden Age qui se rassemblent pour former cette équipe. Des agents de la
Autour
classe.
de Jimmy Woo, qui est un personnage récent, un ancien du Shield.
Voilà. D'autre part, oui, bah, les Thunderbolts, par contre, de leur côté, on a l'impression que bah, tous, au fait, ils ont tous des raisons pour se barrer de l'équipe, quoi. En fait,
Ah, mais tous, oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on sent depuis le début.
Oui, mais là, c'est de pire en pire. Enfin, finalement, il y en a
Bah,
plus que.
chacun suit son propre truc.
Ouais.
On voit par exemple bah, Ant-Man qui pense qu'il y a une chose, c'est quitter l'équipe et voilà, et s'enfuir très loin de tout ça. Ghost qui continue de suivre son propre agenda, on ne sait pas du tout ce qu'il est en train de préparer. Enfin, si, il y a une petite note. Alors, je ne sais pas si la note a fait référence, enfin, s'il y a une note qui fait référence en français, puisqu'on nous dit de voir dans Iron Man 20.
Si je crois. Je crois que ça.
Ouais,
Oui,
voilà.
si.
Donc,
Ouais.
voilà.
On nous prévient que pour le moment on l'a pas vu encore.
Voilà. Et puis, bah ouais, on a Headsman qui dit, ouais, j'irais bien voir mon frère pour me moquer un petit peu de lui, maintenant que je suis devenu balèze.
Ouais, alors ça par contre ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On se dit tiens, mais pourquoi d'un seul coup il y a ça par rapport à son frère? Et puis on comprend à la fin.
Ouais, et bah, cette scène géniale à la fin, enfin, on sent le truc venir, on se dit, voilà, il va y en avoir un qui va prendre quelque chose.
Voilà, ouais.
Et on se demande sur
Mais
qui ça va
enfin,
tomber.
c'était suffisamment bien amené pour que ça me surprenne quand même.
Mais oui, parce que le truc, c'est qu'on sait pas qui va en prendre une. Et donc voilà, ça se finit très mal pour un des personnages.
Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça se finit très mal pour l'un des personnages et non, enfin franchement la fin m'a surprise et c'est rare d'ailleurs que je fasse wow,
Ouais, mais moi aussi. Franchement, j'étais même dépité un peu.
Oui, voilà, oui, c'est vrai que c'est assez dramatique cette fin et
J'aurais préféré un autre, quoi.
ouais.
Donc voilà, enfin moi je sais pas, deux bons épisodes qui m'ont surpris parce que je m'attendais pas à grand chose vu la qualité des Thunderbolts ces deux derniers mois. Je me suis dit, oh pff, allez, Thunderbolts, bon ça va être chiant. Et finalement non, c'était plutôt sympa et ça m'a fait vraiment plaisir de les lire. Donc j'ai hâte de voir le mois prochain.
Bon, allez, enfin, de toute façon, bon, c'est pas vraiment un spoiler, l'équipe va subir des changements.
Oui, puis déjà de toute façon le mois prochain c'est Siege
Voilà.
pour les Thunderbolts.
Donc, Jeff Parker va aussi écrire la nouvelle mouture, on va dire, des Thunderbolts dans quelques temps, et on en a lu dans Comics Weekly, par exemple, et c'était pas mal. Voilà.
Bah, on verra ça d'ici quelques mois.
Exactement. Et on termine sur...
Avec ouais, Secret Warriors numéro 11, au scénario Jonathan Hickman, comme toujours, et au dessin Stefano Caselli, dessin et ancrage. Bah, c'est principalement un épisode d'attente, je trouve. Il se passe... il y a quelques révélations, mais il se passe pas grand-chose, au final.
Ouais, il se passe.
Bah, on
Bah,
voit quelques scènes...
on comprend pas. Enfin, ça se lit très vite.
Oui.
Ça se lit très vite. C'est vraiment, ça nous annonce quelque chose, mais quoi? Voilà, en gros, c'est
Ouais.
ça, quoi.
Ouais, c'est
C'est
ça, un épisode d'attente, quoi.
à la fin, je me suis dit, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi, tout ça? Qu'est-ce qui va se passer?
Moi, ce qui me fait peur, c'est que vu que Secret Warriors va aussi rentrer dans Siege, j'ai peur que ce plot soit mis de côté pour un bon moment, quoi.
Ouais, je pense que ça va être délayé encore pour plus tard. Pendant au moins 4 mois, quoi, en fait.
Alors je sais pas si c'est le prochain épisode qui rentre dans Siege ou l'épisode d'après encore, je sais plus. Mais bon, à mon avis, il pourra pas résoudre quoi qu'il arrive toute cette histoire sur Léviathan en un épisode. Ce serait ridicule.
Ouais, ça c'est clair et net. Non, mais à mon avis, ça va durer très longtemps.
Par contre, enfin franchement, il y a vraiment une différence entre le Hickman de Secret Warriors et le Hickman de Fantastic Four. Au niveau de la façon, du storytelling, même du thème de l'histoire, c'est vraiment, vraiment différent.
Ouais.
Là où Bendis nous fait quand même des choses principalement similaire sur toutes les séries Avengers.
Ouais.
Là, on sent vraiment, il y a deux thèmes vraiment, enfin, c'est diamétralement opposé, quoi. Je veux dire,
Ouais.
je pourrais pas, enfin, on peut pas faire plus éloigné, quoi. On a Fantastic Four qui est hyper galactique, avec des réalités alternatives, des choses comme ça, et Secret Warriors qui est vraiment espionnage pur et dur.
Ouais. Effectivement, oui, non, mais et puis même, il y en a un qui prend bien plus son temps, l'autre, on a l'impression que c'est, enfin, ça dépend des arcs aussi, mais Secret Warriors, jusque-là, c'était quand même bien plus dans l'action, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais on va peut-être parler d'histoire comme ce qu'on n'a toujours pas parlé. Grosso modo, bah Daisy entre dans la confidence de Nick Fury. Et on voit que Nick Fury a préparé tout un tas de choses avec des petites équipes par-ci par-là. Donc il n'y a pas qu'une seule équipe de Secret Warriors. Tous avec des buts différents, mais bon. On n'en sait pas plus, quoi. Je pense que ça. On va avoir encore des révélations le mois prochain, j'imagine. Bah de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est des passages sur Gorgon, sur ce qu'il est, sur quelques flashbacks aussi, comment il a eu son épée, et qu'il aurait rencontré ce fameux Léviathan. Le Silver Samurai qui fait une petite apparition, éclair.
Ouais.
Il y a quand même des
Enfin
changements
non,
dans le
non,
dessin.
attends, attends. Je vais faire une blague, ouais. Une blague toute tout foireuse.
Mais vas-y, allons-y.
Non, t'as dit, y a le Silver Samurai qui fait une toute petite apparition éclair.
Non, qui fait une apparition éclair. Oui, enfin.
Oui, mais voilà. Donc blague pourrie.
Ok.
Oh putain! Oh la vache! Oh la
Effectivement, c'est
vache!
moisi.
Voilà, c'est tout pourri.
qu'est-ce que je voulais dire, moi, du coup?
Bah,
Je
du
sais
coup, oui,
plus.
je suis.
Oui, il y a vraiment des grosses différences dans le dessin, notamment la partie avec le Silver Samurai, je trouve super fouillis. Au niveau des dessins, enfin, ça pique un peu les yeux, alors que sur d'autres passages, et pourtant c'est toujours Caselli au dessin sur tout le long. Et autant il y a d'autres passages qui sont beaucoup plus doux, enfin au niveau des contours de dessin, qui sont vachement plus faciles à lire, quoi. Je sais pas, ça m'a paru bizarre, ça.
Ouais, moi aussi. Moi aussi, ça marche. Non, non, mais ouais.
Voilà, bon, un épisode un peu inférieur à d'habitude, mais qui apporte son petit lot de révélations quand même.
Ou plutôt de questions, moi je dirais.
Oui, aussi. Mais bon,
Surtout.
dans une série d'espionnage, en général, quand on t'apprend une réponse, ça te fait tout de suite poser deux questions. Donc...
Sinon, c'est pas une bonne série d'espionnage.
Allez, c'est tout pour ce mag, on va passer à la suite. Spider-Man numéro 129. deux histoires dans ce numéro. Donc la première, c'est Amazing Spider-Man 608 à 610, un arc en entier écrit par Mark Guggenheim et au dessin Marco Cecchetto, accompagné de Lou Cross et Rick Meggard. Bon, ça te laisse un...
Non, je croyais que t'allais enchaîner.
C'est un arc où il y a un peu trop de choses à mon goût. Il se passe trop de choses et ça en devient confus. Et...
Bon, déjà on va traiter des trois sans distinguer les parties parce qu'on va plus s'en sortir. Surtout que je sais plus quoi. J'ai lu les trois les uns la suite des autres.
C'est ce que je comptais faire de toute façon.
Ouais. Donc grosso modo, on retrouve Raptor. On avait vu il y a quelques mois ce fameux personnage mystère qui a connu Ben Reilly et qui en veut à Ben Reilly et qui a pris Peter Parker pour Ben Reilly puisque Ben Reilly étant le clone de Peter, enfin était le clone de Peter, donc forcément Raptor l'a pris pour lui.
Mais il lui en veut tout simplement parce que selon lui, Ben Reilly a tué sa femme et ses enfants.
Ouais. D'ailleurs.
Et brûlé sa maison.
Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas du tout ce qui se passe et on se demande bien pourquoi il en veut plus à Ben Reilly qu'à cet autre personnage qui revient d'ailleurs et qui est Kane.
Oui. Qu'on avait pu voir un petit peu le mois dernier dans le premier épisode de Web of Spider-Man volume 2.
Ouais.
Un petit rappel.
C'était le retour de Kane. On voyait qu'il s'échappait de quelque part. Il était tenu par des espèces de mecs qui ressemblaient aux gens de Dalo, le jeu vidéo. C'était assez bizarre. Mais donc Kane est de retour. À partir de là, en fait, il va y avoir toute une partie de l'histoire. On va nous raconter les origines de Raptor, pourquoi il est devenu comme ça et surtout pourquoi il en veut à Ben Reilly. Donc en fait, on apprend que ça s'est passé. Durant ces fameuses années d'errance où Ben Reilly parcourait les États-Unis persuadé qu'il était le clone de Peter Parker. Il a croisé la route d'un scientifique avec lequel il est devenu ami.
Oui, il était son assistant de recherche en fait.
Voilà, son assistant de recherche et ce scientifique au fait étudiait l'évolution de l'espèce et en fait essaye de prouver que l'homme ne descend pas vraiment du singe, mais descend du dinosaure.
Oui, voilà, il essaye de trouver ce fameux chaînon manquant.
Ce chaînon manquant, qui serait plutôt entre l'homme et le dinosaure qu'entre l'homme et le singe. Bon, pourquoi pas, hein, après tout c'est du comics. Alors là, il y a un premier problème, c'est que, au fait, je sais pas si t'as remarqué, mais dans la version française, on a du mal à distinguer... Enfin, dans toutes les versions d'ailleurs, c'est au dessin. On a du mal à distinguer Peter Parker de Mark Ryder, je crois qu'il s'appelle. Enfin, il s'appelle Ryder, en tout cas. On a du mal à distinguer qui est qui. Et au fait, à un moment donné, la scène...
J'ai du mal à le distinguer de Ben Reilly, qui a une teinture...
C'est de Ben Reilly que je voulais dire, oui, de Ben Reilly.
Ah ça y est, tu te mélanges les clones, ça y est.
Oui, je me mélange les clones, voilà. C'est pas possible. On n'y arrivera pas. J'avais du mal à le distinguer, puis en plus après, ils passent à une scène où ils sont à table, et au fait, j'avais remarqué que Ben Reilly portait, je crois, une chemise bleue, et après, au fait, c'est l'autre qui, apparemment, porte une chemise bleue, quoi.
J'ai pas fait gaffe. J'arrivais surtout à les reconnaître au niveau du dialogue.
Ouais, enfin voilà, non mais c'est ça, au fait, faut vraiment se fier au dialogue, parce que se fier au dessin, je pense que même, au fait, Guggenheim s'est planté. Puisque à un moment donné, il y a l'un des deux qui a une chemise bleue, et après c'est plus le même. Donc bon.
Non, c'est pas Guggenheim, c'est Marco Cecchetto qui a dû se planter. Ou Lou Cross, je sais pas qui dessine ce passage.
Qu'importe, oui, enfin, je veux dire, quelqu'un a dû se planter quelque part, et du
coup. Ou le lettreur, c'est sûrement le lettreur, ouais, parce que c'est lui qui fait des bulles.
Bon. Mais enfin, le problème, c'est que voilà, ils ont vraiment trop la même tête dans les scènes de flashback, et on a un petit peu de mal. Son expérience tourne mal, forcément, comme dans les, sinon ce serait pas drôle. Ses origines sont pas, ça va pas chercher loin, quoi. C'est vraiment.
Franchement, je pense que c'est peut-être sûrement volontaire, c'est peut-être aussi le côté lézard, mais m'a vraiment fait penser au lézard.
Justement. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Totalement, ouais.
Mmh. J'ai vraiment l'impression que c'est un rip-off de ce personnage, et voilà. Pour moi, Raptor n'a aucun charisme. Donc voilà.
Non, le seul intérêt.
Je suis pas sûr qu'on le revoie beaucoup après. Hein. Faut ajouter à ça aussi les apparitions fréquentes de Screwball.
Ah oh, oui. Qui vient vraiment justement faire son job.
Moi, c'est ça qui ajoute à la confusion. Enfin, franchement, j'ai trouvé cet arc confus.
Ouais.
Je me suis ennuyé.
Il y a trop de trucs. Oui.
Et le retour de Kane est forcé, je trouve.
Ouais.
Super forcé, quoi.
Tout est forcé, et puis en plus, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de la saga du clone, et là, d'un seul coup, on revient dessus comme si c'était un truc normal, alors que ça faisait des années qu'ils essayaient de l'éviter soigneusement.
Puis alors, ouais, enfin, je veux dire, là, on revient dessus, mais on est en plein dedans, quoi.
Ouais, On est en plein dedans, donc c'est déstabilisant pour ceux qui l'ont pas lu, évidemment. C'est même déstabilisant pour ceux qui l'ont lu comme nous. Donc ça prouve qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème. En soi, c'est sympa de revoir Kane. En fait, voilà, c'est la bonne nouvelle. Kane est de retour, mais bon.
Était-ce bien de le faire revenir comme ça?
Oui, était-ce bien de le faire revenir comme ça? Et puis, enfin voilà quoi. Et maintenant quoi. Ton interrogation. Et maintenant, qu'est-ce qui va devenir? Bon, voilà. À voir les prochains mois. Si c'est une bonne chose ou pas. Quoi.
Moi, j'ai rien de plus à ajouter sur cet épisode. Des petites blagounettes par-ci par-là, une petite blague sur Mastercard, par exemple.
Non, enfin voilà. Non, mais il y a un petit peu trop aussi de scènes, je trouvais, avec les proches de Peter Parker. C'est trop forcé, quoi. Toujours cet humour avec sa coloc. Enfin.
Une des scènes les plus intéressantes pour moi est la scène où justement ça se passe au front line et que Raptor débarque.
Oui, mais elle est un peu longue. Elle fait quasiment.
Elle est un peu longue, mais c'est la scène la plus intéressante où Peter est obligé d'essayer de jouer avec son identité, bon, comme d'habitude, on sait très bien que personne ne pourra le savoir, mais voilà, enfin, je sais pas, j'ai trouvé cette scène vachement intéressante, quoi, il se retrouve finalement confronté aux flics, les gens commencent à avoir des doutes sur lui, j'ai trouvé ça sympa.
Oui.
Après, bon, le reste, c'est un peu moins bon.
Bon, enfin, voilà, un petit retour dans les années 90 avec cet épisode, mais malheureusement gâché par... Enfin, ce parfum de retour aux années 90 est un peu gâché par le fait qu'il y a trop de choses, quoi.
Et je crois que d'ailleurs c'était le dernier épisode de Guggenheim.
Oui, après il quitte définitivement le Spider-Man Trust. Crew, on va dire.
Brain Trust.
Le Brain Trust. Ça. Voilà. quel nom, je dirais mal choisi, quoi.
Oui.
Parce que franchement, voilà, c'est pas non plus très très recherché, quoi. Enfin bon, c'est mon avis.
On passe à l'épisode, enfin le dernier épisode du
oui,
Mac.
Oui, le dernier épisode du Mac, toujours Amazing Spider-Man.
Ouais, 611, scénario de Joe Kelly, dessiné et ancré par Eric Canet. Ou Canetti, j'en sais rien. Comment ça se prononce. Bref, alors là, moi c'est un épisode qui m'a fait aussi penser aux années 80 et 90 un peu. Pour moi c'est un assistant d'Editor's Month, tu vois. À l'époque où il faisait les épisodes complètement
alors...
fous.
Alors, j'ai vu que dans la version originale, il y a au fait la tête des gens de chez Marvel.
Oui, page de récap à la place.
Voilà, et elle est pas en français au fait celle-là.
Et non, mais c'est vraiment le même délire que l'assistante d'Editor Mons à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles de ces périodes-là.
Oui, oui, c'est totalement.
90, ouais. Où justement, ils faisaient des épisodes complètement fous, complètement délirants, et c'est le cas avec cet épisode. Donc, puisque c'est Joe Kelly, qui c'est qu'on va amener? On amène Deadpool, hein? Forcément, puisque ouais. Joe Kelly avait écrit le volume de Deadpool des années 90.
Ouais, mais alors, Canette, au secours.
Assez spécial, hein.
Trop spécial pour moi. Honnêtement, sur du Spider-Man, sur du mainstream, enfin, la série principale Spider-Man, c'est trop, là.
Ouais, mais bon, l'épisode étant complètement taré, je trouve que le style correspond bien. Au début, ouais. Franchement, l'épisode me plaisait pas du tout. Je me suis dit, putain, ça va être long, ça va être chiant, je vais détester cet épisode. Et, à la fin de l'épisode, finalement, l'épisode est pas si mal que ça, même s'il y a des choses qui me gênent, notamment les références au Yomama, tu vois, que je n'aime pas.
Ouais.
Parce que c'est fait genre, on fait pour les gamins, pour les jeunes qui adorent ça, on va faire un épisode avec plein de conneries comme ça. Ça m'a saoulé. Bon, les délires de Deadpool sont drôles. La référence à Blackest Night est monstrueuse.
Oui. Non, enfin l'épisode est drôle, mais enfin franchement moi ça aurait été un autre dessinateur, ça serait beaucoup mieux passé. Là franchement ça m'a tout gâché quoi. C'est comme si tu me mettais du Larry Stroman. donc vraiment j'ai eu du mal avec
par
cet
contre,
épisode, même si c'était drôle, mais
ouais, mais alors mine de rien, c'est peut-être le défaut aussi de l'épisode, c'est qu'on a de super infos importantes. Qui vont servir pour la suite.
Ah bon.
Qui sont noyés dans ce joyeux bordel. Les passages avec Madame Webb.
Ou enfin c'est bien les seuls, en fait, ils disent rien, quoi. On voit juste qu'ils s'attaquent aux gens ayant un rapport avec l'araignée, quoi.
Bah oui, voilà, mais c'est quand même. Enfin, voilà, le problème c'est que c'est noyé dans un joyeux bordel. Et donc du coup, on passe presque à côté de ces informations. C'est presque dommage, quoi.
C'est presque too much, quoi. C'est presque tout, en fait. C'est ouais, enfin c'est voilà, c'est est-ce que ça valait le coup est-ce que ça valait le coup de faire cet épisode tout simplement dans la série principale
Ah, je sais pas, moi je... finalement avec le recul, je trouve cet épisode pas si mal que ça, quoi. Il y a des gros délires. Je sais pas, Deadpool se tape un délire de Ghost Rider en traînant Spider-Man avec une chaîne en moto.
Mais enfin voilà, il faut encore du Deadpool quoi, à la rigueur qu'il
Bah
fasse ça
oui, encore du
dans sa
Deadpool
propre
par contre,
série.
ça c'est le souci, quoi. Il y a même une référence où Deadpool... Alors, je sais pas si elle a été notée en français, où à un moment, juste avant de partir, Deadpool lui dit « T'inquiète pas, quand on se reverra dans Deadpool numéro 19, je
Oui,
vais te péter
si,
le cul.
oui. Mais ça,
Voilà.
mais non, mais enfin, j'ai trouvé vraiment les gags pas mal, hein. De toute façon, c'est Joe Kelly habitué au personnage, comme tu le disais. Mais le problème, c'était les dessins d'une part, et d'autre part, foutre ça dans Spider-Man alors que déjà, ça avance pas, ça recule.
Ouais, mais bon, je pense qu'il fallait peut-être un peu souffler avant que maintenant ils attaquent The Gauntlet, puisque Gauntlet démarre le mois prochain.
Enfin, tu vas voir, hein,
Ah oui, non, mais bon.
tu vas voir si ça démarre. moi, j'attends toujours que ça démarre, hein, et pourtant, c'est
Pourtant, c'est
fini.
fini.
Donc, non, non, mais enfin, bon, bref. On en reparle dans les mois à venir.
Bon, par contre, il va vraiment falloir qu'ils se mettent le cul pour la publication, parce que là, on est au 611, aux États-Unis vient sortir le 645.
Ouais.
Alors même s'il y a 4 épisodes par mois, il va vraiment falloir se manier, quoi.
Ah ouais,
Parce
c'est
que là,
clair.
on commence à avoir un putain de retard.
Bon, enfin voilà.
Bref.
Un Spider-Man que j'avais espéré vraiment au-dessus de ce qui s'était fait récemment, en fait. On l'avait pas fait le mois dernier d'ailleurs, tellement il était mauvais. Enfin, j'avais
Bon,
trouvé
elle
très
était
mauvais.
juste moyen, quoi. J'ai lu les épisodes pour... Bah,
Par
quand
acquis de
même.
conscience,
Ouais,
par
voilà.
professionnalisme galopant.
Ouais, par peur de rater une info.
Oh, la mauvaise espion.
Eh merde, dommage, il n'y en avait pas tant que ça.
Ouais, non, non, il y avait, bon,
Ouais, moi j'ai bien aimé les délires sexuels avec Black Cat, ça m'a bien fait rire.
Ouais, mais enfin, c'était vraiment un retour inutile aux années 80, quoi.
Mais c'est un retour général des années 90.
Bah, non,
Spider-Man vient de rajeunir de
retour,
20 ans.
c'est une régression totale, en
Ouais.
fait, qui va piocher dans toutes les époques, que ce soit années 80, années 90, années 70 aussi. Regarde, au début, c'était vraiment la narration des années 70, hein, avec un super scénario qui vous est narré par je sais pas qui, puis il faisait des blagues
Ah
et tout.
bah oui, bien sûr.
C'était
Bah,
ridicule.
c'était le cas dans cet épisode, hein. On avait à chaque fois Freaking qui était barré parce que d'ailleurs Freaking n'est pas une insulte, mais enfin bon. Freaking Writer, Freaking Penciler, etc.
Bref, tout ça pour dire que bah bof voilà. C'était pas trop mal, mais bon.
Oui, non, rien à ajouter de ma part, pour ma part, c'est... Voilà, c'est juste...
Bah non, bah, enfin disons que par rapport au niveau habituel de la série, ça va encore, quoi.
Ouais, enfin, on avait eu des bons épisodes ces derniers temps, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on descend un peu. On verra bien.
Et bah tu verras par la suite.
Allez, on va passer à la suite et on va finir avec le bloc X-Men. Et on commence par le Astonishing X-Men numéro 65. Premier épisode, c'est le Astonishing X-Men volume 3 numéro 32. Scénario de Warren Ellis, dessin de Phil Jimenez, ancrage de Andy Lanning. Donc, c'est la grosse baston face à cette fameuse bio-sentinelle.
Ouais, une espèce de bio-sentinelle.
Géante.
Bah enfin, comme une sentinelle, quoi, quand même.
Ouais, mais bon, elle est géante. Alors là, on a eu des sentinelles à taille humaine, hein, rappelle-toi de Zéro Tolérance.
Oui, aussi, oui,
Le
bien sûr.
magnifique Zéro Tolérance.
Non, non, mais là, enfin là, c'est plutôt la sentinelle classique, mais on dirait une sentinelle zombie, quoi, un peu. Ce qui est absurde, puisqu'une sentinelle est un robot d'habitude, mais bon.
Et pourtant, tu n'es pas si loin de la vérité.
Voilà.
Mais on ne donnera pas l'explication de ces sentinelles, parce que ça arrive à la fin et on voudrait pas vous spoiler le moment de découverte. Par contre, cette sentinelle, en plus d'être bio-organique, elle a le petit pouvoir de cracher des broutes des doigts.
Ça fait vachement jeu vidéo, tu sais. On dirait un boss, tu sais, la sentinelle bio-organique qui crache des broutes par les doigts. Mais enfin bon, il faut préciser quand même, parce que les gens vont se dire, ouais, c'est n'importe quoi, cet arc de Warren Ellis, encore une fois. Ça fait quand même suite à un truc qu'il avait initié dans Excalibur, à l'époque de son run ça devait être en 98, quoi, par là.
Oh non, c'est plus vieux que ça va être 94-95, je dirais.
Ah oui, c'était avant
C'était avant
Onslaught. T'as
Onslaught,
raison,
donc
ouais. Ça devait être 80. Oui, mais c'est vrai qu'avec les parutions françaises, comme on avait du retard, plus que maintenant, étonnamment quand même, on avait plus de retard, donc oui.
D'ailleurs, c'est bien que tu parles du sujet du retard. Juste un petit coup de chapeau à Panini quand même, qui nous publie Siege maintenant, en mois d'octobre, alors que Secret Invasion s'est arrêté en décembre. Et si on compte bien le nombre de numéros, il y a eu 13 numéros de Dark Avengers. Donc on a quand même rattrapé vraiment du retard.
Ouais, on a rattrapé du retard, mais après ça dépend des séries. Comme on dit, comme on
Et
disait d'ailleurs,
décès.
on vient de le dire sur Spider-Man, on se demande comment ils vont faire parce que là ils prennent vachement de retard quand même.
Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ils ont vraiment accéléré cette année. Et c'est pas plus mal.
Oui, bah
Voilà,
oui. Ben
excuse-moi, fin de la parenthèse, mais
bah, non, bah enfin voilà.
tu m'y fais penser, donc voilà.
Ouais, ben c'est tout ce que, c'est quasiment tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, puisque on va pas spoiler les tenants et les aboutissants, on va juste dire que. Moi, je l'ai trouvé meilleur que la première partie, quand même.
Ouais, bah moi je trouve pour le moment ça toujours meilleur que l'arc précédent, qui est d'une connerie sans nom pour moi, je trouve. Enfin, c'est vraiment, c'était du grand n'importe quoi.
Bah, c'était contradictoire, quoi. C'était la solution au problème mutant,
Mais en fait, non.
mais au fait, non, voilà, puisqu'on sait très bien que ce sera pas exploité par la suite. Donc,
Et
c'était, ouais, c'était vraiment
là,
inutile.
voilà, bon, c'est ok, c'est de la grosse baston, c'est rentre dedans, c'est prétexte à de très jolies images de
Ah oui.
Figueres Jiménez,
Ah oui,
c'est
bah,
beau. Moi,
franchement,
franchement, je trouve ça très beau.
oui.
Ça pète de partout. Ça me fait vraiment penser à du comics années 90.
Encore une fois, ouais. Bah, de
Ouais.
toute façon, Astonishing X-Men, c'est vraiment le mag, comment dire, le mag X-Men qui fait penser aux X-Men des années 90, beaucoup plus que le mag X-Men classique.
Ouais. C'est vrai.
Voilà. Donc, bah, d'ailleurs, on va partir un petit peu sur les années 90 avec toujours
Ouais,
le.
je voudrais juste terminer juste un dernier truc. Il y a aussi un autre truc qui me fait marrer avec ce que fait Ellis, contrairement à d'autres séries, c'est qu'il insiste vachement sur cette tension entre Wolverine et Cyclope, qu'on voit dans d'autres séries, on en parlera tout à l'heure dans X-Force notamment, enfin plutôt dans X-Necrochat,
Oui.
mais il remet en avant cette espèce de rivalité entre les deux, et pas la rivalité actuelle où l'un a envie de tuer l'autre, mais en même temps il se respecte. C'est vraiment juste à cause des choix. Là, c'est vraiment, ils peuvent pas se piffrer. Façon vraiment années 70, années 80.
Ouais. Ouais, on a l'impression qu'il y a eu un espèce de retour en arrière. De toute façon, Astonishing X-Men, enfin la série, hein, pas le mensuel, est vraiment en dehors de la continuité. Enfin, bon,
Oui,
vraiment.
ah oui, de toute façon, oui, c'est en
C'est
dehors.
quasiment un peu, si on voulait le placer, on aurait du mal parce que c'est vraiment, voilà, ça n'a pas d'incidence sur ce qui se passe dans les X-Men ailleurs, quoi, enfin dans les autres séries X-Men. Mais donc voilà, donc du coup, Annelies peut faire un petit peu ce qu'il veut des personnages et je sais
Moi,
pas si.
disons quoi, c'est ce côté-là, tu vois, de rivalité entre Wolverine et Cyclope. Là, on a un bel exemple encore dans ce numéro-là, qui me fait vraiment rigoler. Vraiment, ça me fait marrer de les voir s'engueuler comme ça, pour rien, quoi.
Ouais, bah ouais. Effectivement. Non, mais ça rappelle des vieux épisodes que certains ont peut-être lu dans Special Strange.
Ouais.
Voilà, surtout.
Donc oui, comme tu disais, on passe à quelque chose de un peu plus années 90,
Ah, enfin
quoique.
tout autant, moi je dirais. Ouais. Tout autant.
Quoique, ouais, enfin, ouais, si on veut, ouais. Donc, X-Force volume 3, numéro 20. Au scénario, Kyle et Yost. On va pas donner les prénoms comme ça, on va pas se tromper. Non, c'est Greg, Kyle et Chris Yost.
C'est simple.
C'est simple.
C'est simple de se tromper, surtout.
Et dessiné et ancré par Mike Choi et Sonia Aubach.
Oui.
Donc, c'est toujours déjà super beau.
Ouais, moi j'aime beaucoup, de toute façon. Je sais que beaucoup n'aiment pas aussi tout ce qui est un petit peu photoréaliste, mais moi j'aime beaucoup. Donc
Là,
ce que
ça passe
fait.
bien. Puis ils ont tous les deux un style très clair, très différent de Clayton Crane, qui a un style vraiment dark.
Bah, je dirais que ce qui est vachement bien là-dedans, c'est qu'ils ont un style très, je dirais, métallique.
Mais ça
Ça
c'est
sent,
dû notamment au coloriste,
oui,
qui ajoute tous ces effets.
mais justement, ça sent vraiment le, voilà quoi, ça colle vachement à X-23, à Wolverine, et puis ils sont toujours dans des espèces d'usines, ça sent Terminator 2 quoi, la scène
Ah.
finale avec,
Totalement, bah, de toute façon on avait déjà eu,
oui,
je
ben
me
voilà,
rappelle, avec
oui.
Laura qui se jette dans la lave. Bah, donc là justement, c'est X-23 qui est toujours dans cette espèce de comment, je sais pas comment ils ont appelé ça en français, la facility ça s'appelle.
Oui, je
Voilà.
sais plus, là, retrouver comment ils l'ont appelé, je me rappelle plus, mais oui,
Et
enfin.
avec l'agent Morales, elle essaye de s'échapper. Et donc la solution qu'elle a trouvée, c'est répandre un peu partout ce fameux gaz qui la rend dingue au niveau bah, tuerie, quoi. Niveau sauvage, pour bah, justement pour péter les plombs et tuer tout le monde sur son passage.
Voilà.
On a le droit à des scènes de charcutage avec
Oui.
des têtes qui coupent, des jambes qui volent.
C'est toujours aussi le magazine quand même qui reste le plus gore de, enfin de mois après mois quoi. C'est Astonishing X-Men qui est quand même le plus gore entre la Bio Sentinelle qui est assez dégueulasse, les découpages de têtes et puis après Dark Wolverine qui est hyper violent.
Oui, qui est vraiment hyper violent.
Ça fait quand même beaucoup quoi. Et
Oui, et puis
d'ailleurs,
ne parlons pas même pas des zombies de X-Necrochat.
oui, en plus.
Mais bon, voilà. Bon, c'est vraiment une grosse baston, quoi.
Ouais, mais c'est du guilty pleasure.
Mais c'est bon, ouais, ça reste bon quand même. Il y a quand même de la narration. Il y a surtout un découpage très cinématographique dans la mise en scène.
Ouais, totalement, ouais. Ouais. Quand je parlais de Terminator, c'était vraiment, voilà, qu'on a l'impression de mater un...
Cette planche où on voit Laura à genoux qui dit qu'elle n'en peut plus, avec la Jean Morales qui la tient dans ses bras et l'usine en fond qui brûle, le tout en format cinémascope sur la page. Voilà.
C'est beau ce que tu dis, Steve.
On peut pas faire autrement que penser à du découpage cinématographique.
Ça fait rêver. On peut, oui, bah d'ailleurs, c'est du découpage dans tous les sens du terme, hein. Cinématographique et autres, ouais. Quoi.
Et puis bon, de leur côté, on a Archangel et Warpath qui retrouvent Wolfsbane, enfin mon crâne en français, et son mec.
Ah oui, alors ça, par contre, j'avais même oublié.
Mais je me rappelais même pas comment, enfin, je sais même pas comment ils ont fait pour la retrouver. Je me rappelle plus le mois dernier. De toute façon, l'histoire d'Oran me fait chier.
Non, moi, j'en étais resté à l'histoire avec les géants des glaces.
Ouais, où elle était blessée, elle tombait, et puis voilà. Et je sais même pas comment ils l'ont retrouvée.
Mais moi non plus. Soit je l'ai loupé, soit il y a carrément pas eu parce que c'est du n'importe quoi et faut vite expédier ce truc-là parce que ça mène nulle part.
Mais oui, ça mène nulle part. Et qui, alors soit il a des zincs, soit il la met dans New Mutants. Je vais le répéter moi après moi, mais elle a rien à faire dans X-Force. Elle ne sert à rien.
Mm-hmm. Mais de toute façon, X-Force, on le sait aussi. Hein, l'équipe va un petit peu être modifiée dans quelques temps. Donc.
Oui, enfin, il nous reste encore 7 mois.
Ouais. Donc bah oui, mais enfin mine de rien, ça fait que jamais que 6 ou 7 numéros, quoi. C'est pas énorme, ça fait finalement un arc et peut-être un one shot, quoi.
Oh non, deux arcs, je dirais.
Enfin, ça dépend comment ils ont découpé, mais bon.
Bah il y a X Necrochat déjà qui passe par là.
C'est vrai.
Et puis ensuite il doit y avoir encore un arc.
Qui fait peut-être partie de Second Coming.
Oui. Oui, effectivement.
Voilà.
Plus un numéro final, j'imagine.
Voilà. Ah bah il y a la mini-série Sex and Violence.
Ouais, enfin c'est un petit peu.
Je sais pas si vont le publier en français, enfin je sais pas, on verra. Ce serait intéressant de voir. Bref, c'est tout.
Ouais, c'est tout, hein. Très très bon épisode encore une fois.
Kaleyost sur les mutants, moi j'achète, quoi.
Même si je n'aime pas X-23, me font m'intéresser un peu plus au personnage.
Ah bah totalement là, oui.
C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'en fait je m'en fous de ce personnage.
Bah ouais, c'est un petit peu la version.
J'ai pas lu la série.
Non, moi non plus.
Comment elle s'appelait, New X-Men, voilà.
Et je pense que le malheur, c'est qu'elle a été introduite par Chris Claremont, c'était mauvais, quoi. Franchement, c'était mauvais. Les épisodes de Claremont avec X-23...
Si tu veux, moi, c'est que j'ai jamais rien lu avec elle, et ça m'attire pas, quoi. Une équipe de jeunes mutants, une fois de plus, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Mm. Voilà, j'ai pas forcément envie d'aller lire des back issues pour en savoir plus, quoi.
Ouais.
Bref, on passe à la suite. Dark Wolverine numéro 82... scénario de Daniel Way et Marjorie Liu, dessin de Giuseppe Camuncoli, ancrage d'Onofrio Catacchio. Et on entre dans Siege avec Dark Wolverine, et c'est mauvais, putain. Je me suis fait chier à la lecture de cet épisode.
Ouais, c'est pas terrible du tout, quoi. Et c'est dommage parce que la série Dark Wolverine commençait bien.
Oh putain, le premier arc était génial, et alors après, depuis, je me fais chier.
Oui. Et on pensait que Marjorie Liu allait injecter, au fait, une... Le petit plus qu'il fallait pour que ça fonctionne, et voilà, je sais pas.
Alors je sais pas, alors ou c'est pas eux qui ont écrit le premier arc.
Non, je pense pas non plus.
Parce que il y a vraiment, enfin, je sais pas, le premier arc était vraiment d'une créativité et d'une inventivité géniale, avec ses retournements de situation, Daken qui trahit dans tous les sens, qui fait appel au Fantastic Four. Je me suis dit il va se monter tout un groupe avec le Marvel Universe ou je sais pas. Eh ben non, que dalle. Mm. Que dalle. On est vraiment resté dans le Dark Reign.
Mais enfin, en même temps, pour faire l'avocat du diable par rapport à Daniel Way et à Marjorie Liu, c'est tout le problème des tie-ins aux grands events, quoi.
C'est-à-dire
on leur demande d'écrire une histoire qu'ils n'ont pas forcément envie d'écrire. Donc là, c'était peut-être le cas. Et aussi, ils avaient peut-être en projet effectivement de faire cette fameuse grosse équipe avec Dark Wolverine et de suivre un petit peu l'idée qu'ils avaient initiée dans leur premier arc. Et on leur a pas laissé. Enfin, le champ libre, quoi. On leur a peut-être dit non, Dark Wolverine, il va faire telle chose, tel truc, il va apparaître dans tel numéro tie-in à Siege, etc. Donc bon, ils ont peut-être un petit peu les mains liées aussi.
Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, la série me passionne absolument pas. Il y a quand même la dernière scène qui m'a bluffé. Je me suis dit, bon, on va où avec ça?
Ah bah oui.
Donc voilà, à part cette dernière séquence, le reste n'est qu'un gros bash d'Asgardien, Daken qui fait chier. En fait, qui fait chier tout le monde, qui écrase la tête à un soldat dans son propre vomi, qui se fout de la gueule de tout le monde. Moi, je sais pas. Alors, peut-être que sa vocation d'être drôle, moi, c'est pas mon humour.
Oui, c'est un petit peu le Wolverine, mais tu sais, vraiment, Badass, parce que Wolverine a quand même un code moral, quoi. Il fait pas non plus n'importe quoi. Enfin, il y a toujours une raison qui le pousse à faire, à agir de telle ou telle manière. Lui, c'est vraiment Wolverine, mais sans aucune morale et,
Bah, j'ai l'impression, moi, qu'on lui fait faire des scènes comme ça, tu vois, des scènes choc, dans le but, de faire choc, quoi.
Oui,
C'est tout.
gratuit, quoi. La violence gratuite.
C'est pas, ça, moi, ça m'attire pas.
Non, c'est un petit peu facile, mais en même temps, bon, voilà, quoi. Est-ce qu'ils ont pas eu un petit peu les mains liées sur...
Sans parler de cette violence à l'extrême, hein.
Ouais.
Têtes explosées, de cadavres charcutés.
Non, mais c'est vraiment super violent. D'ailleurs, je suis surpris que Asto, là, enfin, limite, ça devrait être, enfin, bon, ça va peut-être faire gueuler certains, mais interdit au moins de 12 ans, quoi, tu vois. Parce que on interdit bien Scalp au moins de 16 ans. Là, c'est quand même extrêmement graphique.
Ah bah oui. Oui, c'est vraiment graphique.
Donc voilà quoi, il y a juste encore peut-être un tout petit tag, oui, pour le lecteur averti, mais ils le mettent sur tellement de magazines que ça n'a plus aucune valeur, quoi, sérieusement.
Je suis sûr que même Spider-Man là.
Peut-être, ouais. Alors que bon, enfin, il y a un monde entre Spider-Man et X-Men.
Attends, ouais, il y a un espèce de zombie tout moche, hein, il y a Kane.
Non, c'est un barbu, il te ressemble, Steve, arrête.
Enfin, j'ai pas les mêmes cicatrices, hein, sans la dire.
Oui, c'est ce que tu dis.
Bref, on va pas rester plus longtemps là-dessus, on va passer au dernier numéro.
X-Necrochat.
De cet épisode, voilà, X-Necrochat, enfin de ce magazine plutôt, pas de cet épisode.
Le gros événement.
Kyle et Yost au scénario de cette partie. Donc on a déjà eu les deux dernières parties du numéro One Shot US le mois dernier. Là, cette fois-ci, on a la partie principale, dessinée par Clayton Crane.
Et, ouais, mais bizarrement, j'ai dû m'habituer à son style parce que ça passe très bien.
Ah, ça passe très bien, ouais. Là, ça va. Franchement, il y a des fois où c'est un peu plus rushé, un peu plus fouillis, mais là, comme il n'y a pas énormément de scènes de baston pur, ça reste vraiment lisible.
Non, puis même la représentation de Necrochat à la fin, je trouvais ça très bien, quoi.
Donc, bah, c'est l'armée de Séléné qui se met en marche sur Utopia, en fait. C'est vraiment le début du crossover. Mm-hmm. Et bah, ils décident de commencer par la fameuse prison X. Alors, je pense qu'ils ont dû traduire ça comme ça, ou peut-être la cellule X, je sais pas.
Ouais,
X-Brig en anglais, donc... Bah Shaw, qui c'est qu'il y a d'autres encore là-dedans, bah, notamment Sébastien Shaw qui fait des mauvaises rencontres avec des gens de son passé, ressuscités, bien évidemment.
Évidemment.
On révélera pas qui, hein, il y a vraiment beaucoup de monde.
Oui, enfin on peut le deviner un petit peu, quoi.
Une des parties intéressantes, c'est Bastion et Cameron Hodge qui assistent à toute la scène, qui se rendent compte que le technovirus est compromis et qui disent qu'il va falloir qu'ils accélèrent leur plan. Mm. Alors quel est-il?
Bah quel est-il, mais de toute façon, c'est vraiment deux personnages. Bah, des années 90, encore une fois, qui réapparaissent, qui sont réapparus depuis le début de ce volume de X-Force. Donc, à mon avis, leur plan, bah, ce sera pour la fin, peut-être, de la série.
Oui, il y a un truc qui me choque quand même. Comment arrive-t-il à avoir un feed vidéo de ce qui se passe dans le X-Brig?
Alors, ça, c'est... Bon, en même temps, Cameron Hodge, c'était quand même le mec qui était lié à la phalanx, etc.
Ah, non, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent à tout voir, quoi. Donc,
Puis Bastion, c'est quand même, faut rappeler que c'est, en fait, c'est comment ça s'appelle,
bah, Nemrod.
Nemrod,
ouais, voilà,
oui, voilà, mixé avec la Sentinelle Suprême en passant par le seuil du péril.
Reportez-vous aux années ouais. 80, fin des années 80.
Mais quand même, c'était une bonne idée, quoi. Parce que le personnage de Bastion, c'était vachement intriguant de le voir arriver dans les années 90. On disait, mais c'est qui ce type?
Ouais, mais bon, ce qui est énorme, c'est qu'ils ont une vision d'Utopia, donc ils peuvent tout, enfin ils savent tout sur les mutants, quoi.
Oui.
Donc, leur plan doit être sacrément balèze.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu, il y a certains raccourcis comme ça. On se dit, mais comment font-ils, quoi, pour voir tout ce qui se déroule? Bah oui. Mais je pense pas qu'on ait de réponse de toute façon.
Ah bah peut-être si, peut-être après, on verra bien.
Ouais.
Sinon, on a X-23 qui veut qu'on lui réimplante ses griffes qu'elle s'était elle-même arrachées sur son bras, coupées dans X-23.
Voilà.
Scène encore un petit peu crade, quand même.
Bah toujours, oui. C'est toujours un petit peu. Mais là où c'est vraiment gratuit dans Dark Wolverine, là quand même ça a un sens.
Ouais. Et puis bon bah ils sont attaqués de toutes parts par des anciens alliés ou des anciens ennemis. Enfin en tout cas les mutants des X-Men, d'Utopia. Mm-hmm. Puis voilà. Et on apprend surtout le plan de Séléné.
Oui.
Voilà. Le but ultime de son plan, c'est de devenir une déesse. Voilà. Et par contre, pour faire son armée, elle va à un endroit et c'est juste énorme.
Ouais.
C'est juste énorme.
Mmh. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout.
Non, pour moi, ça commence bien.
Ça commence bien et c'est même étonnant parce que je vais te dire, j'ai peut-être de mauvais esprit, mais me disais, bof, ouais, X-Necrochat, ils ont voulu faire une sorte de Blackest Night chez les X-Men.
C'est clair, attends, comment on peut ne pas y penser?
Ouais, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Le déroulement de l'action n'est pas le même. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil, quoi.
En tout cas, ça part bien. Vivement le mois prochain, voir ce que ça donne réellement, puisque là, on va vraiment commencer à rentrer dans le crossover pur, parce que là, c'est ni plus ni moins que le prologue. Donc, on verra avec les séries principales, X-Force notamment, New Mutants aussi, et puis X-Men Legacy.
Exactement. Voilà, t'as très bien résumé le crossover. Donc de toute façon en VF c'est X-Men et Astonishing X-Men, les deux mags.
Et donc X-Men auquel on va passer tout de suite. Hein.
Oui d'ailleurs, par contre, bon, les gens gueulent souvent, mais dès qu'il y a un crossover, il faut lire les deux mags, puisque Panini a bien sûr mélangé les séries de telle sorte que quand il y a un crossover, on soit obligé d'acheter les deux, quoi.
Mais en tout cas, les deux mags sont très bons, même
Mais
Asto,
bon.
même supérieur à X-Men.
Ah, Asto est toujours très bon depuis pas mal de mois maintenant. Et puis encore, on n'a pas eu X-Factor ce mois-ci.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, X-Men, ça dépend des fois, mais ça remonte un peu en ce moment.
Ouais. Bah, on y passe tout de suite, hein. Donc le X-Men numéro 165. Premier épisode, enfin les deux premiers épisodes, pardon, ce sont les Uncanny X-Men numéro 519 et 520. Au scénario, toujours Matt Fraction. Pour le premier épisode, au dessin, on retrouve Terry et Rachel Dodson. Et pour le deuxième, Greg Land et Jay Layston. Bon bah la première partie c'est la suite de ce qu'on a eu le mois dernier, c'est-à-dire The Void, enfin le petit fragment de The Void qui est dans la tête d'Emma, qui se retrouve dans la tête de Cyclope, et Cyclope qui aidait Emma va essayer de le contenir.
Ouais,
pas grand chose, hein, c'est pas.
Une espèce de lutte un peu psychique qui s'engage hein. Dans la psyché d'Emma, c'est Cyclope qui prisonnier qui va affronter The Void et qui va essayer de le vaincre en combattant en fait ses peurs les plus profondes, ses doutes, etc. Enfin voilà quoi, en gros c'est ça. Hein.
Ouais, pour moi c'est la partie chiante. Hein. Les parties les plus intéressantes sont quand même le Science Club, enfin le X Club là qui n'arrive pas à sauver l'île, même aidé de Magneto. On voit que Magneto se vide rapidement de ses pouvoirs, il n'a plus sa jeunesse. Et puis Jeffries qui se rend compte que le but des Predators n'était pas simplement de tuer les X-Men, mais de se faire tuer et de libérer des nanites qui prenaient des renseignements un peu partout.
Voilà, donc ça c'était plutôt bien pensé. On se demandait ce que venait foutre ces X-Predators avant. Et bien voilà, on a la réponse maintenant et ça augure de choses assez intéressantes.
Enfin... De toute façon, on va être un petit peu obligé de spoiler puisqu'on va parler du deuxième épisode, donc on va continuer dans les révélations. Magneto décide d'aller faire un petit pacte avec Namor de manière à sauver l'île de son propre chef en faisant construire un grand pilier sous l'île pour abriter la nouvelle cité des Atlantéens et qui permettra donc de soutenir l'île et qu'elle ne s'enfonce pas dans la mer.
Mais alors ça, tu vois, je suis plus dubitatif sur ce truc-là. Je me dis, ok, d'accord, mais on voit jamais, au fait, on voit que Namor, qu'on voit jamais les Atlantes, etc. Donc bon.
Enfin, il a bien expliqué que son peuple était un petit peu réparti partout, quoi, suite à cette espèce d'attaque
oui.
de Norman. Il y a comme un lien avec The List. Mm-hmm. Dernière chose, Beast quitte l'équipe pour un moment, en tout cas, d'ici de prendre un congé.
Mais j'étais en train de me dire par rapport aux Atlantes que on a l'impression qu'ils essayent de nous faire un petit peu un truc à la Asgard, tu sais, à la Siege, mais chez les X-Men, quoi. Peut-être qu'on va aller vers un conflit entre les mutants et les Atlantes. Enfin, pour le moment, c'est l'entente cordiale, mais peut-être qu'un jour ça va péter avec Magneto. En fait.
C'est possible. Mais en tout cas, nous rappeler cette espèce d'alliance entre Magneto et Namor, puisque Namor avait fait partie de la Brotherhood of Evil Mutants dans les tout premiers numéros.
Exactement.
C'est toujours sympa, quoi. C'est
ouais.
Un bon vieux retour vers le passé.
Mais en tout cas, Magneto, je trouve un peu sympa, un peu trop sympa, en fait.
Ah, je sais pas, moi j'attends de voir, il me plaît comme ça. J'aime bien Magneto qui fait son côté un peu gentil, qui essaie de se faire pardonner ses erreurs.
C'est un peu gros aussi.
Moi j'avais bien aimé l'époque où dirigeait les X-Men à la place de Xavier, tu vois.
Ouais, mais c'était bien amené, enfin, tu sais, c'était long comme progression du personnage. Là, c'est un petit peu, la dernière fois, il a quand même essayé de tous les tuer, de tuer Xavier encore une fois, etc. Et puis là, il revient, la bouche en cœur, et il fait, finalement on est potes puisque vous avez construit un truc pour les mutants, alors voilà.
Ouais, mais maintenant les circonstances ont changé. Il y a plus que 198 mutants. Ils peuvent plus se permettre. Enfin, il y a plus que 198. Il doit y en avoir quoi, 98 en réalité, parce qu'avec tous ceux qui meurent.
Ouais, mais il y en a toujours des nouveaux qui apparaissent, ouais. Comme par enchantement d'ailleurs. C'est un petit peu problématique.
C'est pour garder ce nombre de 198, je sais pas peut-être.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas mal.
Ouais. Je trouve que le premier épisode est moyen, le deuxième est plus sympathique.
Bah, le premier, ça me faisait vraiment penser à ce qu'on a eu chez Justice League avec Jericho. Là. qui passait dans la tête des gens. Non, c'était
Jericho, c'est ça.
Non, mais c'était pas juste.
Ah non, c'était Titans.
Dans les Titans, voilà.
C'était dans Titans, mais c'est Jericho. Ouais. Pour le deuxième épisode, en fait, Wolverine, merde, Psylocke, j'arrivais plus à retrouver son nom, et Colossus vont traquer le dernier Predator à New York, mais il s'avère qu'il a déjà été tué par Phantom X.
Ah oui, le retour de Phantom X aussi.
Voilà. Qui ne veut pas les aider puisque bah c'est un mercenaire, donc il fait que du travail payé.
Bah d'ailleurs on l'avait vu dans il y a pas longtemps dans Wolverine the List.
Oui.
Phantom X.
Oui, oui.
Et je sais plus si c'était Fraction qui l'avait écrit.
Non, c'était Jason Aaron.
Jason Aaron. Bah pourtant voilà, donc Phantom X est bien de retour. Et on va pas le dire où et quand, mais on sera amené à le revoir dans les prochains mois.
Cyclope et Magneto s'engueulent suite à la décision de Magneto de passer dans d'autres Cyclopes.
Aussi,
il,
ouais.
Il lui dit qu'il ne lui fait pas confiance, en tout cas pas pour le moment.
Mm.
Et il y a quand même un rapprochement entre Xavier et Magneto.
Ouais.
Moi, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette relation-là plus que la relation Cyclope-Magneto.
Ah bah moi les deux m'intéressent quand même. Je sais pas, enfin Xavier Magneto.
Moi, une alliance Xavier-Magneto pour faire tomber Cyclope.
Ouais, peut-être Xavier un jour frustré de ne plus avoir le monopole de chef quoi sur les X-Men. Je sais pas, faut voir. Ce serait intéressant.
Et donc Wolverine, Psylocke et Colossus font la rencontre avec qui a envoyé les Nanites. Les Nanites, pardon.
Et
voilà,
qui...
bon, ça s'arrête oui. Là, d'ailleurs.
Exactement.
Ça s'arrête là-dessus. Ouais. Moi je trouve ça sympa. C'est quand même plus sympa que certains épisodes qu'on a eu ces mois derniers. Bon, c'est pas non plus du grand chef-d'œuvre. Les petits bouts d'à côté d'histoire qui sont plus intéressants que l'histoire elle-même, je trouve.
Mais depuis Nation X et le retour de Magneto, quand même, il y a un intérêt supplémentaire à la série qui avait vraiment perdu de son prestige, quoi.
Le premier intérêt, ça reste quand même le Science Club, enfin le X Club, qui, si au départ ne m'avait pas fait une très très bonne impression, a pris un petit peu en charisme.
Ouais, mais par contre, ça traîne un peu en longueur, hein, quand même. C'est-à-dire qu'ils subissent un petit peu les événements, ils font pas grand-chose, quoi.
Non, mais bon, voilà, ils apportent une petite touche supplémentaire, ce qui aussi fait que Beast a perdu son utilité dans l'équipe de scientifiques, d'où le fait qu'il s'en aille.
Mmh.
Alors que va-t-il devenir ? L'avenir nous le dira.
Eh ben, il va être remplacé par Dark Beast, qui va prendre sa place pendant des mois, pendant que
non,
The Beast
déjà vu,
sera...
déjà vu.
Oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça.
Déjà fait. Allez, on passe à la suite, c'est le Dark X-Men numéro 3, toujours au scénario Paul Cornell et au dessin et ancrage Leonard Kirk. X-Man s'est créé un corps grâce à l'énergie psychique qu'il avait un petit peu prise le mois dernier avec cette espèce de conglomérat de cerveau. Voilà, truc bizarre, quoi.
Oui, voilà, les espèces de sectes cérébrales, quoi, je sais pas comment les appeler.
Il débarque à l'Avengers Tower pour tout casser.
Ouais, en fait, là, c'est vraiment X-Man face au Narc Avenger.
Mais X-Man avec un plan. Puis on voit qu'il a acquis de nouveaux pouvoirs, il est à moitié, il arrive à se sortir du temps.
Ouais.
Et
c'est un peu dommage parce que l'idée, le final de cet épisode est pas mal, mais on sait très bien que ça va pas durer, quoi.
Alors, moi par contre, est-ce qu'il n'y a pas une page où il y a des dialogues qui manquent ?
Oui, si, bien sûr.
D'accord, donc j'avais peur que ce soit un problème.
Non, c'est ça, oui.
L'édition américaine, non.
C'est pour ça que Mystique se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, quoi.
D'accord, ok. Non, parce que j'avais peur que ce soit vraiment un problème avec l'édition américaine, donc non, ok. Voilà, donc pareil, encore un petit twist sympathique. Ce qui est marrant, c'est que dans cette série, les twists sont toujours intéressants.
Oui, mais effectivement, non, mais un twist sympathique, mais comme je disais juste avant, c'était que malheureusement, on sait que ça va pas durer, quoi.
Oui,
ça va
être vraiment, de toute façon, on le sentait venir, ce twist-là. Enfin,
ouais, bah oui.
Je sais pas, pour moi, ça me paraissait logique, quoi.
Oui.
Mais bon, voilà, c'est toujours intéressant. C'est surtout la réaction de la personne qui se rend compte de tout ça.
Mm.
Qui est assez drôle.
Bon, à voir comment ça se termine, quoi, puisque je pense que ça va être la dernière partie ensuite.
Non, c'est dans 5 parties, donc oui. Il en reste encore 2.
Ça pourrait être drôle, quoi, en tout cas.
Ouais, en tout cas, une série qui est plus intéressante que ce que j'aurais pu le croire au départ.
Mais tout simplement parce qu'on n'a pas vu les Dark X-Men dedans. C'est que sur X-Men, cet épisode.
Enfin, on les voit quand même, quoi.
Ils font une apparition.
Mais bon, ils sont pas vraiment charismatiques, quoi.
Non,
le personnage central est quand même...
Ça pourrait être une mini-série X-Man, quoi, en fait.
X-Man et Mystique sont vraiment les deux personnages centraux. Et Norman.
Oui, aussi. De toute façon, Norman est partout.
Oui.
Mais il n'est pas dans le prochain épisode.
C'est Big Brother, en fait.
Oui.
Dernier épisode du mag, le New Mutants numéro 6. Scénario de Zeb Wells, dessin de Jojenis Nivis et ancrage d'Ed Tadeo. Waouh. J'ai été soufflé par cet épisode, moi, personnellement.
Bon, moi, pas plus que ça, j'ai envie de dire, j'ai bien aimé, mais bon, et explique-toi.
Alors déjà, ça commence par les retrouvailles de Xavier et des New Mutants.
Oui, donc ça c'est sympa.
Donc,
vrai que c'est sympa.
scène super sympathique de voir le prof qui voit ses élèves de nouveau en équipe, qui ont grandi.
Ben, c'est alors voilà, c'est justement ça le petit bémol que j'apporterai, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a eu aucune, quasiment aucune évolution. Ils se sont séparés pendant plusieurs années, puis finalement ils reviennent tous ensemble, puis on a l'impression que c'est la même équipe qu'il a quittée il y a, enfin, il y a pas 20 ans, mais je veux dire.
Ah non, mais ils se rendent compte qu'ils ont grandi. Et d'ailleurs, en plus, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'on voit Doug Ramsay, donc à l'extérieur, qui analyse les positions des corps comme un langage, puisque son pouvoir de mutant, c'est d'arriver à comprendre tous les langages. Et donc, on a la bulle de dialogue réel et ce que la pause veut dire, en tout cas analysée par Doug Ramsay. Et c'est vraiment excellent. Enfin, j'ai trouvé cette narration super bonne, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'elle est originale, mais chiante à lire quand même avec ces espèces de trucs,
À la
tu sais.
couleur fait que,
Ouais.
oui, voilà, le rouge sanguin sur un noir, c'est pas très heureux et pas
Oui,
très
puis
facile à lire,
avec
tu vois.
des 1 et des 0 partout, enfin on voit la séparation.
Ouais, enfin, les 1 et les
Alors
0 partent assez vite, hein, quand même. On
la
les voit
dernière
juste au
fois,
début.
c'était pas je crois que tout n'était pas de la même couleur. Enfin tout était de la même couleur, je veux dire, et c'était chiant, encore plus
Alors
chiant
qu'en
à lire.
VO, pourtant, le texte était en rouge et les 1 et 0 étaient en blanc. Ils le sont toujours, hein.
Je pense qu'ils se sont plantés le mois dernier sur l'imprimerie en
Ils ont
fait.
corrigé cette fois-ci.
En France, voilà. Et là, ça a été corrigé. Mais
Donc on a ça, et puis bah Doug qui s'attaque à l'équipe ensuite.
enfin moi ce que je trouve dommage, tu vois, sur les New Mutants, c'est qu'ils sont restés finalement les New Mutants. Ils sont toujours les nouveaux mutants, alors que finalement, maintenant, ils devraient être des X-Men à part entière. Et au fait, on sait qu'ils ne grandiront jamais. En fait, ils ne seront jamais des X-Men, ils seront toujours les New Mutants.
Ils sont une équipe à part entière pour moi. Enfin, je sais pas, ils sont passés la plupart dans X-Force. Ils ont acquis leur propre identité pour moi. Enfin, même si aujourd'hui on les appelle de nouveau New Mutants, c'est pas pour autant que c'est la petite équipe. La petite équipe, c'est les Young X-Men.
Ouais, mais justement,
C'est
c'est pour
vraiment
ça
pour moi,
que...
c'est le même type d'équipe que ce qu'était X-Force à l'époque, c'est-à-dire une équipe à côté qui n'a rien à voir avec les X-Men purs, quoi.
Bon, alors bon, c'est vrai qu'ils ont leur histoire personnelle, et bah là, ça leur revient d'ailleurs de plein fouet dans la tronche, quoi.
Et Doug Ramsay est ultra puissant. Enfin, je veux dire, son pouvoir est décuplé.
Mais d'ailleurs, comment est-il mort?
Alors attends que je me rappelle. Il meurt dans les épisodes 50, quelque chose comme ça.
Et c'était pas un crossover, c'était pas le projet Phalanx ou un truc
Non,
comme
non,
ça.
c'était bien avant, bien avant. Et ensuite, il avait été fusionné avec Warlock pendant Extinction Agenda.
Ah voilà, c'était ça, Extinction Agenda. Puis il était pas
Il
dans
est devenu
Génération X?
justement.
Il était dans
Ben,
Génération X
il
ou
est
pas?
passé dans Excalibur, ensuite.
Ah oui, d'accord.
Il y en a après. Enfin, ça remonte à loin, tout ça. Oula.
Voilà.
Et donc, justement, Warlock, qui est sur le retour. Parce que bah, Doug et son grand ami, ils étaient déjà très, très amis avant. Et en plus, avoir été fusionnés ensemble, voilà, ça a porté pas beaucoup plus enfin, dans leur relation. Et donc, voilà, il
Et
vient.
là, c'est les retrouvailles. Mais les retrouvailles sont assez terribles, au fait.
Ah ouais, c'est un final, un choc monstrueux. Bah je sais pas, moi je suis resté sur le cul. Cet épisode, j'ai vraiment trouvé excellent. Pour moi, le meilleur épisode du mag, hands down,
Ah
vu aux États-Unis.
oui, non, mais de toute façon, sur ce mag-là, c'est vrai que oui, c'est le meilleur.
En tout cas, enfin, pour moi, tout est bon dans cet épisode. Autant le double sens avec les bulles et puis le décodage de Cypher, le combat de Cypher où on voit vraiment tout un autre pan de son pouvoir décrypter les positions des corps en plein combat et donc éviter tous les coups et pouvoir s'en sortir. La façon dont il est mis en échec, enfin, tout est bon, quoi. Je sais pas, Zewell s'en sort super bien. Autant sur Superman, il me faisait, sur Superman, hein, sur Spider-Man, il me faisait horriblement chier, que là je le trouve excellent. Ils ont vraiment trouvé la bonne place qu'il lui fallait.
Ouais. Alors, en même temps, c'est toujours, alors on le dit à chaque fois, mais c'est toujours aussi glauque, voire plus là.
Bien sûr, mais je pense que finalement ça reste aussi un des charmes de la série, ce côté glauque.
Oui, mais je pense que c'est comme tu disais, ils ont leur entité propre, cette équipe-là. Et bah leur entité, c'est quand même d'être l'équipe qui a toujours des missions très très glauques. Enfin, oui, c'est tous des personnages perturbés aussi, quoi.
Ouais, ils ont tous leur part
Leur part sombre.
de secrets qui se cachent les uns les autres. C'est marrant parce que c'est comme X-Force, une série sur laquelle j'aurais pas parié un copec dessus au départ, quoi. Je me suis dit, oh là là, revival des années 80, ça va être chiant et tout. Et pourtant, de mois en mois, c'est une série que j'apprécie de plus en plus, quoi.
Ouais, c'est sur les séries secondaires de l'univers des X-Men que bah, des scénaristes, franchement, sur lesquels on parie pas forcément, réussissent le mieux, quoi.
Enfin, j'espère que ça va continuer avec cette qualité-là pendant longtemps, parce que ce serait dommage que ça se foire, quoi. Pitié, pas comme Dark Wolverine.
Oh oui, non, mais là, on a déjà bien entamé la série comparé à Dark Wolverine. Ah, quoique, non, bah non, en fait, ça fait le même nombre d'épisodes quasiment.
Grosso modo, ouais.
Ouais. Bah, et enfin, en tout cas, il s'est déjà passé bien plus de choses passionnantes dans cette série que dans Dark Wolverine.
Bien, donc c'est tout pour les reviews de ce mois-ci. Et on a reçu un mail auquel on va répondre tout de suite. C'est un mail de Steamboy qui nous dit donc « Salut les furtiches, comme tout le monde, on dit un grand merci pour votre podcast. Sauriez-vous s'il existe des comics VF ou VO traitant de l'univers steampunk de près ou de loin ? Que penser du Batman Gotham by Gaslight dans l'univers du 19e siècle ?» Et donc il finit en disant « Merci pour vos réponses savantes et bon courage. »
Bah merci.
Donc, déjà, merci pour les compliments.
Merci pour les compliments, mais alors tout le monde ne dit pas merci pour notre podcast, il faut le savoir. Voilà. Ouais. Malheureusement, on aimerait bien, mais il y en a qui ne disent pas merci, voire même qui disent
cassez-vous. Non, mais bon, hein, c'est pas grave. Voilà. Il faut bien des détracteurs.
Voilà, ça prouve qu'on gagne. C'est ce que je te disais, en notoriété.
Ah ouais, un petit coup de brosse à relire, ça fait toujours du bien. Alors, pour répondre à la partie facile, Gotham by Gaslight, on en avait fait une review il y a de ça très longtemps, quand c'était sorti en français.
Ah, du temps où j'étais pas là, en fait.
C'était sorti en français, c'était dans le Comic City numéro 9. Ça remonte. Donc c'était sorti dans un bouquin librairie. Alors je n'ai pas le nom de la collection, parce que je connais pas trop les collections françaises, j'ai un peu de mal, je me perds un peu.
Bon, ça doit être ici Icons, peut-être.
Peut-être, ouais. Ça s'appelait Batman au 19e siècle. Et il y avait donc dedans Gotham by Gaslight et sa suite Master of the Future.
Mais alors attends, c'est pas Blackest Night, c'est quoi ?
Gotham by Gaslight.
Ah, d'accord, oui. Oui, j'entendais un truc comme Blackest Night, tu sais, d'accord.
Voilà, donc voilà, il y avait les deux qui sont sortis en français. Moi, je le conseille, c'est quand même une lecture super sympa. C'est aussi un monument, puisque c'est un des premiers Elseworlds de chez DC, et donc chez Batman aussi. Donc voilà, non, franchement, vraiment, vraiment très très bon. Et je te conseille de te reporter à cette critique pour une version plus longue.
Alors, faut préciser, c'était à l'époque où vous enregistriez avec un dictaphone.
Oui, oui, la qualité de son n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais bon, ça reste quand même compréhensible. Hein. C'est bon, là, arrête de me jeter des pierres.
Et encore, il y a eu l'époque où vous faisiez ça en morse aussi, avec des casseroles.
Le premier épisode était loin d'être le plus réussi.
Je me demande si je les ai tous écoutés les premiers.
Bref, maintenant pour la deuxième partie, enfin, en tout cas la première partie de ta question, qui est un peu plus compliquée, est-ce qu'il existe des comics qui traitent de l'univers steampunk de près ou de loin en VF ou en VO? Bon, alors déjà la réponse la plus simple, tu as la série Steampunk de Chris Bacalo,
voilà.
Sortie chez Wildstorm, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas dire si c'est bien ou pas. Mais bon, c'est Chris Bacalo, donc moi je suis pas un grand fan de son style.
Okay. Mais peut-être la connais-tu déjà, hein, peut-être l'as-tu lu, donc en plus
oui,
c'est voilà. Pas comme t'as pas précisé si tu avais déjà lu des séries traitant de ce thème-là, peut-être que c'est justement parce que tu as lu cette série que tu as posé la question. Je sais pas.
J'ai vu qu'il existait, en faisant quelques recherches, un one shot, un graphic novel, un one shot quoi, de Matt Fraction qui s'appelle Five Fists of Science, qui est sorti chez Image. Mmh. Qui n'est pas sorti en français, je crois. C'est donc sorti en mai 2006. L'histoire, en gros, c'est Nikola Tesla, Mark Twain et Bertha von Suttner qui vont joindre leurs forces pour essayer d'amener le monde à la paix par une puissance de feu supérieure. Voilà. Je te traduis ça à la volée. Hein. Voilà. Mais on retrouve aussi des gens comme Thomas Edison, pas mal de personnages.
Pas mal de personnages, donc, ouais. du début du siècle.
Voilà. Dans l'esprit très steampunk. Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Dessiné par Steven Sanders aussi.
Bon, sinon, dans les références connues, plus connues, t'as bien sûr la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Qui, ouais, malgré tout, un monde assez steampunk hein, dans l'esprit.
Ah, totalement, ouais, totalement. Il y a aussi, de ce que j'en ai entendu parler, puisque c'est vachement français ce que je dis, allez, de ce que j'en ai entendu parler, Planétary de Warren Ellis, il y aurait pas mal d'ambiance steampunk, puisque bon, j'en ai feuilleté aussi, effectivement, ça y ressemble en tout cas. Donc pourquoi pas. Sinon, t'as aussi Lady Mechanica chez Aspen, qui, alors j'en ai pas lu, hein, mais la couverture fait vachement, vachement ambiance steampunk aussi. Quoi. Il y a vachement le style steampunk.
Le numéro 0 est sorti. Bah, je te renverrai sur le site de Cable Chronicles, mon partenaire. Il y a un petit lien sur la page principale de notre site, hein, si vous ne connaissez pas l'adresse, qui nous dit que justement le numéro 0 est sold out.
Voilà, donc encore un succès de chez Aspen.
Donc voilà, bon, c'est à peu près tout pour le steampunk. Il y en a sûrement d'autres, hein. On a fait quelques recherches assez rapidement.
Bah, t'avais trouvé un lien, Steve, tu veux pas lui donner?
Ah non, j'ai pas trouvé de lien.
Ah bon, d'ailleurs, je croyais que t'avais trouvé un lien avec une sélection d'épisodes de steampunk.
Non, j'avais trouvé une liste sur Amazon. J'ai pas le lien là en plus. C'est terrible. Je l'ai pas gardé.
C'est vraiment tout miteux, tu sais.
Donc, mais voilà. Donc. Déjà, voilà quelques suggestions. Si vous dites, vous avez d'autres suggestions pour le steampunk, pour Steamboy, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Et puis, bah, Steamboy, je t'encourage à regarder les commentaires, voir si quelqu'un vient mettre d'autres suggestions sur l'univers steampunk.
Et ben oui, puis un jour peut-être. Mais faudra qu'on lise pas mal de choses encore parce qu'on a des progrès à faire là-dessus. Peut-être qu'il y aura un spécial steampunk.
Ouais, peut-être. Ou peut-être pas. Non, c'est pas que j'aime pas. Mais bon, voilà, on a tellement de choses à lire et c'est pas toujours facile d'arriver à.
Ouais, mais c'est pour ça que je dis peut-être. Hein, le peut-être fait bien les choses.
Et puis bah si tu veux du steampunk aussi, je sais pas si tu es vraiment bercé dans l'univers jeu vidéo. Il y a un vieux jeu qui est sorti il y a de ça un peu plus de 10 ans maintenant.
Oh, mais attends, mais c'est sur quelle console aussi?
Sur PC.
D'accord.
Qui s'appelle Arcanum, qui est un bijou steampunk. Alors peut-être que tu connais déjà. À ne pas confondre avec le comics, hein, ça n'a rien à voir. C'est un jeu qui est excellent au niveau steampunk. Donc, et un RPG. Au passage, ça donne le style quand même. Voilà, c'est tout. Bah, j'espère qu'on aura un petit peu répondu à ta question quand même.
Voilà. Et tu as été diffusé dans Comic City, ce qui est déjà extraordinaire.
Oh, la fausse modestie.
Non, je plaisante, bien sûr. Bon, voilà.
Donc, c'est tout pour notre 41e épisode. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la fin des parutions du mois d'octobre, avec de la librairie, mais aussi du kiosque.
Normalement.
Bah, oui. Sauf si les grèves passant par là...
Ah non, non, oui, si, oui, il y aura du kiosque, effectivement.
Bah oui, il y a moins d'essais. Il y a moins d'essais. Mais à moins qu'il y ait tellement de grèves qu'on n'ait plus aucune distribution de comics, ce serait terrible.
Ce serait, bah, on va mourir, tout simplement. On va dire pas.
C'est la fin de tout, c'est la fin du monde.
Mmh. Et
ce n'est pas Ragnarok, sinon, c'est la grève.
Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter.
c'est tout un art, monsieur. Ouais. Donc, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, sur le site, bien évidemment, pour nous laisser les commentaires. Vous pouvez nous envoyer un mail à podcast@comiccity.fr, comme nous a fait Steamboy, Thomas.
Voilà. Et vous pouvez nous laisser des messages audio au numéro que Steve va vous redonner.
C'est le 09 70 440 497, un numéro normal, non surtaxé. Ou encore en ajoutant Skype dans Comic City, ou plutôt l'inverse, en ajoutant Comic City sur Skype et en nous laissant un message.
Voilà.
Donc on diffusera le message dans l'émission et on répondra si question il y a.
Et oui, et puis de toute façon on vous diffusera, puis on... De toute façon, on commentera quand même.
Oui, oui. Oui, on commentera bien sûr, mais si jamais il y a une question, on y répondra.
Oui, exactement.
Et bien évidemment, vous retrouvez tous les anciens podcasts sur iTunes. Donc si jamais tu veux retrouver le Comic City numéro 9 pour la critique de Gotham by Gaslight, voilà, tu peux le faire sur iTunes ou sur le site, bien évidemment. Il y a le petit moteur de recherche en haut aussi du site qui est très pratique pour arriver à retrouver quelque chose.
Ça s'appelle un moteur de recherche, c'est toujours, ça sert toujours.
Voilà, c'est tout, et donc on se dit à
15h.
On se dit à d'ici une quinzaine de jours pour la fin du mois d'octobre.
Allez, lisez des comics, portez-vous bien, et ciao, à plus.
À bientôt.